Bien, je vous propose de recommencer. Juste quelques mots d'introduction en complément de ce qui a été dit ce matin. Quelques mots simplement pour remercier le travail d'Anne, pour remercier Anne et son travail. Et notamment, on a oublié de signaler que dans cette semaine, on a eu un début de semaine extraordinaire aussi avec Michel Pastoureau, qui nous a parlé des procès d'animaux au Moyen-Âge. Alors, chose extraordinaire que beaucoup ignoraient dans la salle. Donc on a vraiment une semaine consacrée à cette thématique et merci d'avoir travaillé beaucoup avec Georges aussi pour faire venir des conférenciers. Je remercie les étudiants qui sont revenus. Certains autres étudiants arriveront un tout petit peu plus tard parce que je crois que certains ont des cours jusqu'à 15h ou 15h15. Donc ça c'est pour des généralités. Alors j'en viens maintenant au sujet de l'après-midi. Je suis ravi que l'on commence par une thématique qui s'appelle l'état du débat. Pourquoi? Parce que à Mendes France, dans la politique générale de Mendes France, nous avons fait un travail de prospective récemment. Et une des conclusions de la commission de prospective, c'était de développer le volet débat et controverse. Et là, on y est, on est en plein dans cette approche avec la thématique que nous développons aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Burga, qui est directrice de recherche à l'INRA et, excusez-moi de le dire aux surprises, philosophe. J'avais d'ailleurs une question préalable, c'était de savoir combien y a-t-il de philosophes officiels, en tout cas, parce qu'on peut tous se considérer comme philosophes quelque part.
Ah non!
Très bien, je vous fais réagir. Donc, combien y a-t-il de philosophes à l'INRA
Eh bien, je suis toute seule, ils ont dit qu'ils n'en recruteraient pas d'autres.
Merci, j'ai une réponse simple. Non, c'était à destination des étudiants, si jamais ils cherchaient une voie, mais j'avoue que là, effectivement, c'est
Voilà, c'est pas
difficile.
la peine d'essayer
C'est pas la
là-bas.
peine d'essayer. En tout cas, Florence, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question animale. Et le plus récent qu'on a répertorié est de 2010. Alors, ça doit être un ouvrage collectif,
Oui, c'est un
c'est ça, hein.
collectif, oui.
C'est un collectif qui s'appelle Penser le comportement animal, contribution à une critique du réductionnisme. Alors, je passe sur les nombreux ouvrages que vous avez écrits, mais qui touchent tous à la question animale, en tout cas dans ceux que nous avons pu répertorier. Donc, votre présentation, en fait, est un espèce d'état des lieux, état du débat, les arguments en présence. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est moins 25. Je vais essayer de surveiller mon temps.
Oui, j'ai décalé de 5 minutes.
Alors, par avance, je vous prie de m'excuser du fait que vous allez entendre pour la troisième fois citer Claude Bernard. Voilà, enfin, je pense le ressaisir dans une optique peut-être un tout petit peu différente. Donc, je vais effectivement m'arrêter plus longuement sur le 19e et partir de ce texte parce que je considère que l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale constitue un moment un petit peu inaugural du débat. Donc, le débat est bien sûr beaucoup plus ancien. Éric Baratet en a magnifiquement brossé l'histoire ce matin. Mais il me semble que dans le fait que Claude Bernard consacre plusieurs parties de son livre à essayer de répondre aux arguments, enfin, je vais justement préciser les arguments auxquels il accepte de répondre et les arguments auxquels ne daigne pas répondre. Je pense que c'est un point tout à fait important. Donc, je crois que l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale constitue un petit peu un moment inaugural, hein, du débat entre ceux qui s'opposent à l'expérimentation et ceux qui la défendent. Alors, comme l'a dit Éric Baratet, c'est aussi le moment au milieu du 19e, on peut dire, d'une double institutionnalisation. L'expérimentation animale se développe, se systématise, s'institutionnalise dans la mesure où elle se pratique dans des laboratoires officiels, mais aussi elle se pratique dans des officines privées et clandestines. De l'autre côté, on peut parler d'institutionnalisation aussi, dans la mesure où la SPA a été créée en 1846 et que par conséquent, la défense animale, même si, là aussi Eric l'a déjà dit, Il y aura deux voies à l'intérieur de la SPA et j'en parlerai un tout petit peu. L'opposition à l'expérimentation, qui encore une fois est très nuancée à la SPA, en tout cas comporte deux époques, a donc son institution. Claude Bernard publie donc l'introduction en 1865. Je donnerai de temps en temps les pages si certaines personnes veulent se reporter. Je cite l'édition Champflammarion, très facilement disponible, de 1984. Il me semble en effet que tous les éléments du débat figurent dans cet ouvrage, fussent de manière allusive, fussent en creux, ou pour clairement dire que certains arguments ne valent pas la peine d'être examinés. Alors, je vais construire cet exposé en trois temps. Il est très rapide, hein, bien sûr, sur des questions qui demanderaient toutes à être beaucoup plus approfondies. Mais enfin, j'espère que ça donnera tout de même un petit peu des pistes de réflexion. Donc, il y a clairement deux volets distincts, et encore aujourd'hui, bien sûr, et comme, encore une fois, Éric Baratel a montré ce matin, un volet scientifique qui comporte à la fois des arguments en faveur d'une défense scientifique de l'expérimentation, une des médecins qui, depuis, donc, je l'ai appris ce matin, très longtemps, sont dans une position dissidente, qui va là aussi se marquer au 19e et se développer aujourd'hui. Et puis un volet éthique qui comporte aussi, on peut dire, différentes perspectives, différentes manières de s'opposer ou de défendre la pratique. Donc dans le volet scientifique, on rencontre des positions, y compris chez Claude Bernard, et je les soulignerai, des positions un petit peu nuancées concernant l'extrapolation d'une espèce à l'autre. Soit cette pertinence est jugée incontestable, soit des limites et des réserves sont apportées, soit donc, à l'inverse, son caractère fondamentalement non pertinent est souligné. Donc très tôt, la pertinence de l'extrapolation va être discutée. Et il est intéressant de voir que c'est le seul argument que Claude Bernard juge digne de réponse, précisément parce qu'il émane de ses pairs et non point des hommes du monde, dont on reparlera. Les hommes du monde sont donc ceux qui n'entendent rien aux idées scientifiques. Donc vraiment, et cela reflète évidemment le 19e siècle et son positivisme et sa foi extrêmement forte dans la science, dans le progrès scientifique, il y a d'un côté les savants, les scientifiques, et puis de l'autre, des gens qui certes ont leur raison, leur sensibilité, mais on verra pour Claude Bernard, tout ça, ça ne mérite pas d'être discuté. Alors au 19e, la divergence de vues sur le plan scientifique reflète l'affrontement entre le mécanisme et le vitalisme. Claude Bernard, du point de vue de son épistémologie, n'est pas du tout un cartésien pur, loin de là. On a parlé du reste à son propos de vitalisme critique, et on va voir là aussi très, très vite, mais c'est très perceptible, notamment dans les titres des sections qu'il donne, qu'il oscille constamment entre mécanisme et vitalisme. Du reste, chez les vitalistes, on n'a jamais une position absolument unique. Il y a le néo-vitalisme de Hans Driesch, etc., etc. Donc, je signale à ce propos que le chapitre que André Pichot, dans son Histoire de la notion de vie, qui est un ouvrage tout à fait remarquable d'histoire des sciences, qui est paru en 93 chez Gallimard, a un chapitre sur Claude Bernard absolument passionnant, et où il s'arrête précisément sur cette oscillation assez opportuniste entre mécanisme et vitalisme chez Claude Bernard, et c'est très, très, très patent dans l'introduction. Il est bien évident, et je pense que tout le monde le comprend, qu'à l'arrière-plan, ces prises de position strictement épistémologiques ne sont pas absolument anodines. Comme on l'a dit ce matin, si on est un mécaniste pur et qu'on dit l'animal est une machine, tout corps vivant est une machine, eh bien, à ce moment-là, non seulement il n'y a pas de problème à expérimenter sur les machines animales, mais il n'y a pas non plus de problème du point de vue de la pertinence scientifique à extrapoler d'une machine à l'autre. Bon. La position vitaliste complique évidemment beaucoup les choses. Donc la dispute entre pairs va faire apparaître de véritables différends épistémologiques, alors mécanisme et vitalisme au XIXe, mais aussi plus tard sur des auteurs sur lesquels je travaille et qui m'ont beaucoup apporté. La conception de l'organisme chez Kurt Goldstein, qui publie la structure de l'organisme dans les années 1930. C'est un neurologue qui travaille sur les lésions cérébrales des blessés de la Première Guerre et qui propose, en s'appuyant sur beaucoup du reste d'expérimentations faites sur les animaux, qui propose une conception complètement nouvelle de l'organisme qui n'est pas une pure physiologie, qui n'est pas non plus une physiologie accompagnée d'une dimension psychique, mais qui vraiment repense comme une totalité indéchirable, l'organisme comme une totalité psychosomatique. Il y a chez cet auteur, chez Georges Canguilhem, qui est donc un médecin et un philosophe, dans son petit livre « La connaissance de la vie », qu'évidemment tous les gens qui s'intéressent aux vivants connaissent bien, il y a des chapitres sur l'expérimentation, et on voit apparaître chez Goldstein, chez Georges Canguilhem, aussi chez le premier Merleau-Ponty de la structure du comportement, une critique épistémologique, pas du tout morale, épistémologique de l'expérimentation, dans la mesure où on va penser le vivant comme toujours en relation avec un milieu qu'il se crée lui-même. Alors, je ne développe pas tout ça, mais je voudrais simplement signaler qu'il y a tout un ensemble de courants de pensée qui apporte une réflexion sur, au fond, qu'est-ce que c'est. Bon, et chez Canguilhem, bien sûr, une conception de la maladie, pas du tout simplement comme la lecture d'un symptôme, mais comme la totalité de l'organisme qui va réagir d'une façon particulière à la maladie. Donc voilà, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire du point de vue épistémologique. À l'heure actuelle, on peut voir qu'il y a des collectifs de scientifiques un petit peu partout dans le monde qui étayent une critique. Donc je ne fais que la signaler, ça n'est pas évidemment un domaine dans lequel j'ai les compétences. Donc je signale cette dissidence, les différences anatomiques et métaboliques, physiologiques, génétiques, mais aussi donc des réflexions sur la notion de maladie induite, dont M. Jaber a parlé tout à l'heure, de l'assimilation d'une maladie aussi à un ensemble de symptômes. Ce qui, pour moi, est le plus frappant, qui nous amène le plus à réfléchir, c'est peut-être la modélisation de la dépression, parce que là aussi, dès lors que l'on va reconnaître aux animaux la possibilité d'être dans des états d'angoisse, de stress, on voit apparaître le mot de désespoir. Je cite un cours de la faculté de Tours, je crois. La perte du comportement d'échappement est considérée chez le rat comme un état de désespoir. Donc c'est tout à fait intéressant de voir des termes, évidemment, qui sont extrêmement loin du mécanisme, arriver pour caractériser donc des états psychique, dépressive, d'anxiété, d'angoisse, de désespoir, qui évidemment pointe la difficulté que je vais développer plus tard d'une justification sur le plan éthique de l'expérimentation, parce qu'on voit à ce moment-là que la distance se réduit. Si on dit que l'animal n'est qu'une machine qui reçoit des stimuli nociceptifs, la justification est plus facile évidemment à apporter que si on lui reconnaît une vie psychique que l'on peut détraquer et que l'on peut soigner donc avec des médicaments qui soigneront les états dépressifs que nous pouvons subir les uns et les autres. Donc, avant d'entrer un petit peu plus dans la thèse de Claude Bernard, je voudrais évoquer ce que Elisabeth de Fontenay nomme dans son chapitre « Dans le silence des bêtes, l'expérience du semblable », ce qu'elle nomme le paradoxe du vitalisme. Car en effet, au XVIIIe siècle, les philosophes et les savants qui vont récuser le mécanisme Loin d'en conclure, je cite pratiquement à l'analogie de sensibilité qu'implique cette continuité de la vie à travers les vivants, donne libre cours à leur ardeur expérimentatrice, où se mêlent savoir de la douleur et volonté de ne pas savoir. Fin de citation. Donc je reviendrai sur ce paradoxe qui tient en ce qu'une pratique, l'expérimentation animale en l'occurrence, doit à la fois se réclamer du même, donc d'une continuité, voire d'une identité psychobiologique entre les espèces animales et l'homme, pour prétendre à une certaine pertinence sur le plan scientifique, et poser par ailleurs, alors je dis par ailleurs parce que bien sûr le lieu de cette différence entre l'homme et l'animal n'est jamais clairement déterminé, du reste il n'est pas déterminable, il y a une multitude de différences, mais il n'y a probablement pas une différence fondamentale et décisive. Donc, par ailleurs, la nécessité de poser une différence entre les hommes et les animaux, sans quoi, bien entendu, l'expérimentation sur les animaux devient aussi insupportable et aussi injustifiable que l'expérimentation sur les êtres humains qui seraient dans l'incapacité de s'opposer. Donc, Claude Bernard décide de répondre uniquement à ses pairs, uniquement aux arguments qui proviennent du milieu scientifique, car, dit-il, il ne faut pas se laisser émouvoir par les cris de sensibilité des gens du monde ou par des objections qu'ont pu faire des hommes étrangers aux idées scientifiques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est évidemment que les gens du monde ne sont capables de rien d'autre que de cris de sensibilité, alors que de l'autre côté, on a affaire à des arguments rationnels. Donc, on voit vraiment que pour Claude Bernard, c'est de la sensibilité, des sentiments, une façon de s'offusquer, de s'évanouir, mais que l'idée qu'il puisse y avoir une argumentation rationnelle, éthique rationnelle construite, ne semble pas l'effleurer. Donc, chez lui, de toute façon, la question de la justification n'est pas un embarras. Il ne cherche pas du tout à poser des finalités très importantes pour justifier sa pratique, puisque à de multiples textes, de reprises dans le texte, il dit « je fais des vivisections pour voir ». « Pour voir » est en italique, donc c'est vraiment la curiosité scientifique. Donc je recite ce passage, mais peut-être pour attirer l'attention sur quelque chose de particulier. « Le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant. Il n'entend plus le cri des animaux, il ne voit plus le sang qui coule. » Il ne voit que son idée et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu'il veut découvrir. Alors ensuite, il dit qu'au fond, pour le chirurgien, c'est la même chose. Pour l'anatomiste, c'est la même chose. Il ne sent pas le charnier, etc. Et il écrit, d'après ce qui précède, donc ce qu'il vient de dire, nous considérons donc, alors évidemment, enfin, dans l'introduction, le rôle du mot « donc » est très intéressant parce que ça vient vraiment là à la place d'une cheville argumentative. On ne voit pas très bien comment, en quoi le fait que le physiologiste n'entende plus les animaux l'amène à dire « nous considérons donc comme oiseuse ou absurde toute discussion sur les vivisections ». Page 154. Donc cette équivalence des cas est obtenue parce qu'il dit que chacun suit son idée et qu'au fond, la valeur d'une chose dépend de la manière dont la personne qualifie elle-même cette chose. Donc si le physiologiste qui fait une vivisection dit je suis mon idée, eh bien la valeur de cette chose, c'est l'idée qui est suivie. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est bon, bien sûr la posture de surdité absolue à toute autre chose que son idée, qui saisit le savant et qui probablement mériterait de longues analyses. Mais on peut au moins dire que Claude Bernard aura par avance ruiné toute éthique de l'expérimentation. Je dirai un peu plus loin pourquoi j'ai beaucoup de réserves sur ce terme, qui selon moi est confondu avec les bonnes pratiques de laboratoire. En tout cas, il formule une incompatibilité de fond, et je crois que ce passage est très intéressant pour ça, entre la posture expérimentale et le souci porté aux animaux. Car l'animal de laboratoire est un organisme, un modèle, une abstraction, le support d'une idée. Ce qui retient aussi l'attention dans ce texte est la mention des manifestations de la souffrance de l'animal et la manière décomplexée avec laquelle elle est non seulement affirmée, donc Claude Bernard ne dit pas « les animaux ne souffrent pas hein, », mais encore jugée incapable d'arrêter le savant, pris d'une véritable frénésie. Il y a un vocabulaire très fort hein, chez Claude Bernard, il est hypnotisé, enfin, la véritable frénésie de ce savant qui est comme hypnotisé par son idée. Alors bien sûr, on se dit, quel est l'expérimentateur qui oserait aujourd'hui mentionner le cri et le sang des animaux, bon, même si, bien sûr, les conditions dans lesquelles Claude Bernard sévissait et les conditions dans lesquelles les expérimentateurs sévissent aujourd'hui ne sont plus les mêmes. On entend, quand on a des collègues qui parlent un petit peu de cette pratique, que les choses sont loin, enfin, cette anesthésie est loin d'être aussi parfaitement effectuée que la législation le voudrait. Donc c'est vrai que l'inflation actuelle du vocabulaire éthique ne peut que retenir l'attention. Et on a l'impression que c'est à qui sera plus éthique que l'autre et qu'il y a comme une espèce de mesure quantitative hein, du nombre de fois où le mot apparaît. En effet, on se demande ce qui n'est pas éthique aujourd'hui dans le domaine des utilisations des animaux. Éthique de l'expérimentation, éthique du transport, éthique de l'abattage, éthique de la chasse, etc. Éthique de la corrida, etc. Donc, je ne vais pas m'arrêter plus sur les comités d'éthique dont Jean-Pierre Marguéneau a parlé déjà ce matin, mais s'il y a fait allusion, c'est que lors des conférences qu'il a données à l'INRA, il s'était arrêté précisément sur la composition d'un certain nombre d'entre eux qui laissait apparaître, bien sûr, une composition très triée sur le volet. Alors, le mécanisme de Claude Bernard et cette oscillation entre mécanisme et vitalisme apparaît déjà dans la définition qu'il donne de la vivisection. Il la définit, page 157, comme la dislocation de l'organisme à l'aide d'instruments et de procédés qui peuvent en isoler les différentes parties. Donc la vivisection, en fait, ne désigne pas le fait d'anesthésier ou de ne pas anesthésier, hein, c'est le fait d'intervenir sur un animal vivant, que celui-ci soit endormi ou pas. Il a donc à cœur de rectifier les idées fausses qui courent chez certains médecins. Donc c'est ce qui sont pour lui les idées vitalistes. Alors pourquoi il veut les réfuter ? Parce que, pour le vitalisme, le fait de porter atteinte à un organisme et donc de le disloquer détruit cet organisme et ne permet pas d'en avoir une bonne compréhension. Alors, il parle de considérations expérimentales communes aux êtres vivants et au corps brut. Donc là, on voit apparaître sa posture plutôt mécaniste. Par ailleurs, de la spontanéité des corps vivants, qui ne s'oppose pas à l'expérimentation, bon, la spontanéité relevant évidemment d'un vocabulaire vitaliste. Et il cite une lettre de Cuvier à Jean-Claude Mertru, à laquelle il attache de l'importance, puisqu'on peut dire que ce passage évoque l'impossibilité épistémologique de se livrer à la vivisection. Cuvier écrit « Toutes les parties d'un corps vivant sont liées ». Elles ne peuvent agir qu'autant qu'elles agissent toutes ensemble. Vouloir en séparer une de la masse, c'est la reporter dans l'ensemble, c'est la reporter dans l'ordre des substances mortes, c'est en changer entièrement l'essence. Donc on peut dire que là, il y a une condamnation épistémologique, hein, qui n'est pas du tout. Cuvier n'avait absolument pas à cœur de défendre les animaux ni qui que ce soit, comme vous le savez. Donc, c'est vraiment strictement épistémologique. Donc, Claude Bernard dit qu'il faut extirper ces dernières idées et probablement il a à cœur de les extirper puisque lui-même oscille entre mécanisme et vitaliste. Alors, les métaphores mécanistes sont très nombreuses dans son texte. Il faut en quelque sorte décomposer successivement l'organisme comme on démonte une machine, page 106. Page 119, 122, 123 et d'autres, l'organisme est une machine vivante. La maladie et la mort ne sont qu'une dislocation ou une perturbation de ce mécanisme, etc. Il parle aussi de déterminisme absolu. Cependant, il reconnaît un ordre vital à côté de l'ordre physique et de l'ordre chimique, mais il pense qu'au fond, un jour, on arrivera à ranger cet ordre vital dans des considérations physico-chimiques. Mais il parle tout de même de l'influence d'une force vitale créatrice, donc là, on ne peut pas être plus vitaliste dans sa formule, qui influence donc chaque être vivant. Alors, je vais passer un petit peu vite parce que c'est la discussion avec Galien sur les espèces sur lesquelles il faut expérimenter. Donc, pour en arriver à ce point, à cette réserve importante que fait Claude Bernard, cette concession, il est bien certain, écrit-il, page 177-178, que les expériences faites sur l'homme sont toujours plus concluantes. Jamais personne n'a dit le contraire. Simplement, comme il n'est pas permis par les lois de la morale, ni par celles de l'État, de faire sur l'homme les expériences qu'exigent impérativement l'intérêt de la science, nous proclamons bien haut l'expérimentation sur les animaux. Voilà, donc on voit aussi là qu'il ne cherche pas à se justifier, il dit simplement, ça serait plus concluant sur l'homme, la morale le réprouve, donc on comprend sous-entendu que peut-être si elle ne le réprouverait pas, il se livrerait à celle-ci. Par conséquent, eh bien, nous proclamons haut et fort l'expérimentation sur les animaux. Alors, il dit qu'il faut bien, malgré tous les rapprochements qu'on peut établir entre les hommes et les animaux, reconnaître qu'il y a des différences, mais qu'au fond, elles sont intéressantes aussi à étudier. Alors, il y a un médecin qui s'est, je crois, assez distingué par ses objections, tout à fait au début du XXe siècle, le docteur Fauveau de Courmel, qui est l'auteur d'un bilan scientifique du XIXe siècle et qui est l'auteur d'un petit texte qui s'appelle « La vivisection, erreurs et abus ». Alors, le thème des abus est très important dans cette première SPA du XIXe. Ce médecin s'est intéressé au rayon X, c'est un des pionniers de l'électrothérapie. Et il va développer toute une critique, disons, qui comporte plusieurs volets, à la fois une critique épistémologique de l'extrapolation des animaux à l'homme. Il dit que de nombreux médecins mettent en doute le caractère fiable, l'utilité de la vivisection. Donc il écrit... certains grands maîtres de la médecine et de la chirurgie n'hésitent pas à condamner la vivisection comme dangereuse pour la santé de l'homme. Et puis, par ailleurs, donc, il en vient à d'autres arguments, la dénonciation classique des abus, notamment donc, dans l'enseignement. Et puis, il me semble très intéressant par sa modernité parce qu'il propose de recourir à d'autres médecines. Alors, des médecines... on n'a pas pu ce matin dire la médecine chinoise. Mais enfin, voilà, il propose de se tourner vers d'autres médecines qui ont une autre compréhension de la maladie, de l'organisme, etc. Donc, je trouve que c'est un argument très moderne à l'époque, qui est anti-ethnocentré, on va dire. Et puis, cette phrase aussi qui retient l'attention, je trouve qu'il est un petit peu visionnaire. Je vois très bien ainsi un tribunal arbitral discutant les méthodes possibles autres que la vivisection et n'autorisant celle-ci que dans des cas extrêmes où il semblerait que seule elle pût donner quelques clartés. Donc voilà, il propose à l'avance déjà ce que notre directive souhaite mettre en place. Alors, l'autre volet, donc le volet éthique, l'argument éthique du droit à se livrer à des expérimentations sur les animaux, indépendamment donc de la question des bénéfices qui peuvent ou non en être retirés, est posé, mais donc assez difficilement en ce 19e siècle où l'on croit profondément dans la science. Alors Dieu a perdu son auréole et le savant l'a ramassé. Mais la réduction de la distance entre l'homme et les animaux, qu'une conception religieuse garantissait, L'origine des espèces de Darwin est publiée en 1859, cette réduction donc de la distance entre l'homme et les animaux va rendre du même coup plus difficile, sur le plan éthique, la justification de l'expérimentation animale. Au XIXe siècle, il est courant de la part de personnalités importantes qui se sont préoccupées du sort des animaux, de proposer un régime d'exception en faveur de la vivisection et de vouloir simplement en limiter les abus. Donc il y a deux exemples que Maurice Agulon donne. Hein. L'exemple de Pierre Larousse, l'auteur du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, très favorable à la cause animale, admet de faire une exception pour la vivisection à cause de tout ce qu'elle peut apporter à l'homme. Donc Agulon écrit « Larousse admet ici un conflit de devoirs et il le trace en instituant une exception. La vivisection, c'est l'expérimentation indispensable au progrès de la science. Cette dernière valeur est si fondamentale qu'elle justifie l'entorse à la règle générale de sensibilité. » Alors de même, Georges Clemenceau, je passe, hein, aura la même attitude. Alors, est-ce que je peux savoir combien de temps il me reste? Parce que je pense que je vais... Bon, alors je vais laisser de côté, parce que Éric Baratheille a fait allusion ce matin, le fait qu'il y a une dissidence au sein de la SPA et que dans la deuxième partie de la vie de la SPA, il y a vraiment des gens qui disent « Nous ne pouvons pas nous confondre avec des antichambres de la science. Nous défendons les animaux, nous nous défions de la science et nous radicalisons notre propos. » Tandis qu'une autre voix s'intéresse simplement à la manière de mieux traiter, de mieux exploiter les animaux pour en tirer plus de bénéfices. Alors, j'en viens donc à mon dernier point. Donc, même s'il est important, évidemment, de faire état d'une dissidence ancienne au sein de la communauté scientifique, je crois qu'il faut souligner aussi que les arguments de type scientifique et ceux de type éthique, donc j'appelle éthique une interrogation de fond sur le droit même d'expérimenter sur les animaux, ne viennent pas à se renforcer l'un l'autre. Il s'agit de deux domaines de réflexion distincts qui requièrent de part et d'autre des compétences propres. Mais dans un état du débat, il me semble important de signaler tout de même cet éventail de postures. Il n'est cependant pas certain qu'il soit judicieux de la part des militants de la cause animale de choisir comme argument central le caractère, entre guillemets, inutile et dangereux de l'expérimentation animale, car d'une part, cet argument demande à être solidement étayé, et peut-être peut-il l'être, peut-être pas. D'autre part et surtout, cet argument place le centre du propos du côté de l'intérêt humain, comme si l'argument de l'utilité constituait une justification inattaquable, comme si la fin justifie les moyens était une proposition entièrement recevable et indiscutable. Or, comme le dit Claude Bernard lui-même, et comme le disent bien entendu les scientifiques, l'expérimentation, si elle vise à soigner l'homme, serait plus rapide et moins hasardeuse que celles tentées sur les modèles animaux, qui se font par correction successive. Donc, l'utilitarisme ne condamne pas l'expérimentation sur l'homme, dans la mesure où le but de l'utilitarisme, c'est de maximiser le bonheur sur Terre, et elle considère, et cette théorie considère ce faisant, qu'il est moralement justifié de sacrifier un petit nombre d'individus pour le bénéfice d'un plus grand nombre. Cette position est évidemment tout à fait discutable et je me permets de dire que ça n'est pas du tout la mienne. On peut imaginer que des expérimentations faites sur l'homme, et je me suis du coup posé la question de savoir si le docteur Mengele avait fait des découvertes utiles, j'ai voulu savoir ce qui se disait un petit peu là-dessus. Oui, voilà. Imaginons que des découvertes importantes aient été faites par une telle voie, très utile à l'humanité, des expérimentations donc sur des humains non consentants, est-ce qu'elles seraient pour autant moralement justifiées ? Alors, l'article de Wikipédia sur expérience médicale nazie est très intéressant. Je vous lis les premières lignes. Et on voit qu'évidemment, c'est vraiment la balance utilitariste qui est à l'œuvre un peu partout. D'un point de vue méthodologique, je lis donc ces quelques lignes, d'un point de vue méthodologique, ces expériences ne sont pas reproductibles. Et d'un point de vue statistique, elles ne sont pas représentatives. Le panel était trop restreint. En outre, ces expériences n'apprirent rien que l'on sache déjà sur l'hypothermie, la mescaline, la consommation d'eau salée, l'évolution des plaies ouvertes ou le déroulé des maladies infectieuses jusqu'à la mort. Enfin, j'attire votre attention sur la dernière phrase, enfin, du point de vue éthique, les expériences de dépressurisation, entre parenthèses aviateurs, les essais de stérilisation massive ou les essais de casque ne donnèrent aucun résultat de nature à légitimer les souffrances infligées aux victimes. Donc c'est le raisonnement qu'on tient pour l'expérimentation animale et que vous voyez ici, c'est le raisonnement utilitariste qui est tenu. Si cela avait été un grand bénéfice pour l'humanité, eh bien, peut-être que la justification morale était entièrement satisfaite. Donc, il me semble que l'utilitarisme développe une perspective comptable avec laquelle on peut être en désaccord. L'utilité me semble être un argument dangereux. Il ne protège aucun humain d'être exploité à son tour. Il est aussi un critère extensif. Où commence et où finit l'utilité ? On peut aussi s'interroger sur le fait que le geste expérimental consiste ici à nuire. On ne peut en effet que s'interroger sur la schizophrénie qui doit être mise en œuvre pour nuire aux animaux dans le but de faire du bien à l'humanité. Il faut que les individus s'équivalent sur le plan psychophysiologique, puisqu'on induit chez tels animaux la même maladie que celle qui affecte l'homme, puisqu'il s'agit de trouver le remède qui, soignant l'animal, soignera l'homme. Il faut, du même que l'homme, pour que vaille l'expérimentation sur le plan scientifique. Mais cela complique les choses sur le plan de la justification morale. Le dualisme du corps était bien commode et du reste, certains continuent à y recourir. Le corps, c'est l'animal, il réagit à la douleur, une douleur purement physique, c'est-à-dire une douleur abstraite au sens strict du terme, coupée de toute expérience. Elle existerait sans être ressentie. L'âme, c'est l'homme qui a certes un corps. Il est donc possible de réparer cette part vile par des recherches sur les corps vils. Mais dès que l'expérimentation pose une continuité psychique qui conduit à réaliser des tests comportementaux dans l'étude de la dépression, à ce moment-là, tout se complique. Tel est le paradoxe qui sous-tend l'expérimentation, la similitude psychophysiologique entre les espèces, requise par l'extrapolation et sans laquelle l'expérimentation perd toute pertinence sur le plan scientifique, mais elle rend du même coup vaine l'invocation de différences propres à tracer entre l'homme et les animaux une ligne de partage bien nette. Le recours explicite à l'éminente dignité métaphysique de l'homme pour rendre raison des maux infligés aux animaux dans les laboratoires n'est plus guère de mise. On reconnaît de plus en plus volontiers que l'expérimentation animale constitue un mal, que seule la recherche de remèdes aux terribles maladies qui accablent l'homme peut justifier. Mais l'argument ne se détruit-il pas de lui-même, puisqu'il s'agit d'infliger à des animaux ces mêmes terribles maladies ? Identité sans laquelle la recherche d'un remède pour l'homme serait nulle et non avenue. S'il n'est en effet pas moral d'introduire dans un œil humain des substances corrosives pour évaluer les dégâts qu'elles y causent, on voit mal, œil pour œil, pour quelle raison il est moral de faire subir la même chose à un animal. Les tenants de l'expérimentation animale la déclarent morale au motif que ce qui ne l'est pas, c'est de ne pas tout tester sur les animaux aussi longtemps et sur autant d'espèces qu'il le faudra. L'argument de la maladie et de la souffrance humaine ne vaut pourtant que si les souffrances dont on afflige les animaux ne sont, elles, ni terribles ni réelles. Et on se demande par quel tour de passe-passe le cancer de la souris, dont le développement doit permettre d'élaborer un traitement sur l'homme, est moins terrible et moins douloureux pour elle que pour nous. La terreur induite d'un animal rendu fou de peur, moins pénible pour lui que pour nous. On peut dire que François Dagonier a donné une réponse en disant que l'animal est un vivant qui ne peut pas s'opposer. Il a donc tous les avantages, peut-on dire. Mais quand on voit que la notion de consentement éclairé est au fondement de la bioéthique, je crois que si on parle d'éthique, eh bien, il faudrait s'interroger beaucoup sur cette question du consentement. Et je termine pour répondre à ceux qui rétorquent que tout le monde est bien content d'avoir des médicaments, y compris ceux qui sont opposés à l'expérimentation. Je répondrai trois choses. Premièrement, chaque fois qu'il est possible de ne pas utiliser des produits issus de la souffrance et ou de la mise à mort animale, ces personnes y recourent. Leur attrait, leur intérêt, leur pratique pour les médecines dites alternatives est du reste assez bien connu. Deuxièmement, je répondrai que dans la mesure où tous les médicaments, mais pas seulement les médicaments, tous les produits ont été soumis à la réponse animale pour leur toxicité, par exemple, on voit mal comment on pourrait échapper à ce crible, sinon, bien entendu, en se suicidant sur le champ. Troisièmement, il me semble qu'on peut renvoyer l'argument à son auteur. Est-il, lui, si sûr d'acheter et de ne consommer que des produits qui ont été conçus selon les règles qu'il juge justes? Sait-il comment a été fait son ordinateur, par exemple, etc., etc. A-t-il remisé son automobile parce que les chocs ont été testés à Bron dans les années 80 sur les singes? Bref, je veux dire que isoler cette question des médicaments en disant « vous êtes contre l'expérimentation, mais vous en consommez », je crois qu'on peut la retourner à n'importe qui pour toutes sortes de choses. Nous participons, nous sommes sur cette terre parce qu'il y a eu, sur ce territoire, parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus, qui se sont morts, qui font qu'aujourd'hui nous l'occupons. Bon, il me semble que c'est un argument, au fond, très, très faible. Alors, je conclus en disant, parce que peut-être qu'on s'interroge sur, au fond, où je veux en venir. Je considère qu'il serait criminel de s'opposer aux améliorations dans le domaine de l'expérimentation animale, pour autant qu'elles sont effectives et honnêtement menées. On peut se demander, bien sûr, qui veut une réelle modification des pratiques, qui veut véritablement les améliorer. On nous a expliqué ce matin que consubstantiellement, le chercheur manquait d'empathie, sans quoi il ne pourrait peut-être pas faire ce métier. Pourrait-il subitement changer de regard sur les animaux lorsque l'on parle d'éthique et du respect de l'animal de laboratoire? Il me semble que si tout à coup le chercheur prend la mesure véritablement du fait que cet animal est respectable, qu'il a droit à sa propre existence, etc., il sera empêché dans sa pratique. Bref, qui a intérêt à modifier véritablement ce regard? C'est pourquoi, quand Jean-Pierre Marguénaud, je crois, a critiqué les comités d'éthique et s'est félicité de la disparition du terme éthique, c'est pour éviter que le débat ne soit que laissé aux mains des expérimentateurs qui n'ont pas de raison de modifier fondamentalement les pratiques et leur regard sur le matériel expérimental, et que par conséquent, on peut appeler de ses voeux la mise en place d'instances de contrôle parfaitement indépendantes de la communauté scientifique, pharmaceutique et industrielle. Voilà, j'ai un petit peu dépassé peut-être. Merci.
Je vais passer la parole à l'auditoire. Alors, une première question, puis je reviendrai après, ici.
Alors, j'ai été très intéressé. Et en même temps, je vous rejoins et je suis un peu gêné. L'argument que vous donnez, comme quoi, effectivement, l'expérimentateur va vous envoyer, effectivement, il va vous envoyer cet argument que pas de médicaments, si pas d'expérimentation animale. Objectivement, hein, je ne suis pas un pro de l'expérimentation animale, mais objectivement, je pense que pour un certain nombre de développements de médicaments, en 2010, objectivement, on ne sait pas faire autrement. Et je crois que la question qui se pose, au-delà de ça, c'est C'est une question plus globale, vous l'avez dit, hein, c'est une réflexion qui peut être transférée à tout un tas de problèmes. Hein. C'est l'expérimentation animale, c'est une vision utilitariste des animaux, mais on peut le mettre sur la nature, on peut le mettre de façon globale sur les ressources. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est arrivé à un point d'évolution de la société qui fait que arrêter l'expérimentation animale, ça serait aussi vouloir dire que socialement, on est capable d'accepter, de réaccepter dans nos civilisations occidentales la maladie et la mort. Et je crois que, sincèrement, c'est le fond de la question, c'est celui-là. Vous voyez ? Est-ce qu'on est capable de revenir en arrière et de se dire, moi, je suis pas contre, hein, vous voyez, mais je crois que c'est la question qui se pose, c'est ça va avec une acceptation d'un certain nombre de dommages collatéraux qui sont l'acceptation, qui sont complètement naturels, qui sont l'acceptation de la maladie et de la mort.
Tout à l'heure, vous aviez fait une intervention à propos de l'obésité. Et vous disiez, je me demande si au fond, ce n'est pas en amont qu'il faudrait agir. J'ai quand même l'impression que la routine de l'expérimentation fait que nous ne sommes pas suffisamment attentifs à la prévention et qu'on attend que les maladies soient là en se disant, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et il me semble qu'il y aurait certainement beaucoup de choses à faire et une réflexion à mener sur le mode de vie, par exemple, pour éviter des maladies que nous développons et que nous pourrions peut-être ne pas développer. Donc, je ne crois pas que ça veuille dire forcément, on va tous être malades, on va tous mourir. J'ai l'impression, au contraire, est-ce que ça n'encourage pas aussi une forme de passivité et de réflexion en amont? Qui certes ne résoudrait pas tous les problèmes, hein. Je suis pas en train de dire j'ai toutes les solutions, mais au lieu d'attendre qu'il y ait des problèmes de santé qui se posent, je crois que beaucoup d'entre eux pourraient être évités par un autre type de réflexion que de dire bon, les gens sont malades, maintenant on va faire de l'expérimentation et chercher quel est le médicament qui va nous tirer d'affaire.
Oui, en fait. On tombe sur le débat médecine préventive par rapport à curative,
oui.
Qui est un gros débat. Et derrière, il y a un problème économique majeur dans des deux côtés. Mais je crois que ce serait trop long pour le développer ici. Il y avait une demande de question par là ? Attends, je vais l'amener à Georges.
Non, c'est juste un mot parce que tu as parfaitement élargi la réponse que j'avais faite. Jaber avait dit, je présente l'expérimentation, je suis le méchant, je lui ai répondu ensuite. Mais on est tous des méchants puisqu'on consomme les médicaments. Bien entendu, c'est une forme lapidaire. Tu as fait raison de faire remarquer qu'effectivement... On est tous compromis d'une façon ou d'une autre, parfait qu'on utilise une voiture, etc. Dans tous les problèmes de morale pratique, il n'y a pas du tout blanc ou du tout noir.
Mais oui.
Il y a du plus ou moins, et effectivement, il faut aller dans un sens d'amélioration qui est celui que tu proposes. Je voulais apporter la même nuance que tu viens d'apporter.
Pas d'autres interventions ?
Pour rebondir sur ce mot éthique et comité d'éthique, deux remarques. D'abord, le fait que j'ai suffisamment... participer à des comités d'éthique et dans différents endroits pour dire il ne faut pas s'imaginer que même s'il y a une grande prédominance des scientifiques dans ces comités d'éthique, mais il y a quand même aussi des techniciens, du personnel d'animalerie et des extérieurs à la recherche. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a quand même des discussions extrêmement soutenues et que donc c'est pas factice, quoi. Et le fait qu'il y ait une pluralité des personnes, même si c'est des chercheurs, ils sont chercheurs dans des domaines différents, le fait que, justement, il y ait la confrontation à des gens qui ont un autre domaine, une autre approche, etc., ça permet quand même qu'il y ait une vraie discussion. Donc, juste ça sur les comités dits d'éthique. Donc, sur le mot éthique, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fond. Il faut trouver un autre mot. Mais bonne pratique, ça ne me semble pas correct, parce que bonne pratique, ce serait répondre à des choses extrêmement établies. Or, c'est pas possible parce que chaque expérience est unique et qu'on peut pas se référer simplement à un cahier des bonnes pratiques, quoi. C'est trop réducteur, ouais. C'est trop...
Mais parce que pour moi, c'est comme si un chirurgien vous disait, vous savez, madame, je vous ai opéré de façon éthique, hein, je vous ai bien endormie, je vous ai enlevé ce que je devais vous enlever... Est-ce que ce n'est pas le minimum qu'on puisse attendre ? Donc, je suis un peu gênée par ce terme.
Oui, mais c'est... Enfin, Je ne veux pas être réductrice, mais c'est plus simple pour un chirurgien de dire, ben voilà, il y a eu un consensus pour dire telle et telle technique sont les techniques qu'on peut utiliser dans quel cas.
Oui, oui, bien sûr.
Alors
bien
que la recherche, c'est beaucoup plus...
Oui, je me permettais d'utiliser un mot qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui. L'éthique permet aussi de déculpabiliser les chercheurs. Bon, je vais très loin là, Florence, mais on peut se dire qu'on parle d'éthique sans la définir. Le grand public, c'est vraiment ce que c'est que l'éthique. On met de l'éthique à toutes les sauces. Les politiques parlent d'éthique. Est-ce qu'ils font de l'éthique ? Voilà. Nous, on a fait des journées. Non, mais c'est vrai. On a fait des journées d'études sur la bioéthique. On l'a définie. Donc, moi, je peux poser la question de savoir quand même. D'abord, il existe des visites de laboratoire dans des manifestations, etc., scientifiques. On n'a pas vu une image ici depuis ce matin de, si vous, des images qui nous n'ont pas fait trop peur, d'expérimentation sur l'animal. Moi, je me pose la question, je m'attendais ce matin à ce qu'il y ait quand même qu'on nous explique comment fonctionne l'expérimentation, que l'on voit les images, pourquoi, lors de cette journée d'études, on n'a pas osé montrer les images. Ça, je pense que ce n'est pas anodin. Ensuite, il y a des visites de laboratoire qui sont faites. On demande à la société civile, ça aussi je fais un petit peu du café du commerce, hein. On demande à la société civile d'aller visiter des laboratoires. Le résultat sera dramatique pour les expérimentateurs. Ensuite, quid, quid de la société civile pour toutes les questions abordées aujourd'hui, en particulier aussi par l'intervention de Florence. Où est la société civile là-dedans ? Il faut quand même qu'elle ait aussi son mot à dire. Donc il existe des associations, etc. Mais on est quand même concerné directement par cette souffrance animale qu'on passe notre temps à cacher. On en a parlé lors de la dernière journée d'études. Il a très très bien, vous l'avez tous très bien expliqué. On est dans la continuité de cette journée d'études là. Alors pourquoi ce sujet là, sauf accepté à l'espace Mendès France bien sûr, ne fait pas l'objet de discussion dans la société civile, parce que les choses changeraient, je pense.
Alors moi j'avais un commentaire complémentaire. Alors évidemment je pousserai pas tout à fait dans le même sens parce que je suis scientifique et que je freine à un moment donné, mais quand même, vous avez cité les expériences nazies et donc on sait tous que il y a eu derrière le procès de Nuremberg et qu'en fait les lois de bioéthique viennent de là, et je suis très surpris que dans aucune loi de bioéthique, or bioéthique ça inclut, il y a le terme bio vivant, hein, dans aucune loi de bioéthique figure des textes concernant les animaux, enfin le reste du monde vivant en dehors de l'homme.
Oui, c'est très révélateur,
Voilà. Alors, dernière question, parce que je vous rappelle qu'ensuite, et je demanderai à ceux qui seront dans la table ronde suivante de finir vraiment à 16h30, parce que nous avons après un impératif horaire à 17h sur le web. Donc, dernière question, ici.
Alors, ce n'est pas une question, je reviens sur la discussion, d'autant plus après ce que vient de dire Anne. Je pense effectivement qu'on est en devoir de reprendre les problématiques scientifiques sur leur fondement pour savoir si il y a nécessité de l'expérimentation animale et si, je dirais, le bénéfice social qui peut être évalué par des jurys citoyens, effectivement, est rempli. Mais je ne peux pas laisser dire, par exemple, que, effectivement, le cas du diabète que j'évoquais ce matin, typiquement, si la recherche médicale doit servir à mettre la poudre de perlimpinpin dans les McDonald's pour continuer à se gaver et ainsi de suite, ça n'a pas de sens, on est bien d'accord. Je ne sais pas si Clarisse est là, mais sur certaines pathologies génétiques, là, quand je parlais vraiment de la notion d'acceptation de la mort et de la maladie, je veux dire, on a des pathologies comme la mucoviscidose, par exemple, sur laquelle certains collègues travaillent. Ça va quand même toucher en 2010 ce genre de problématique. C'est-à-dire que si on ne va pas sur de l'expérimentation, on ne sait pas faire autrement en 2010. Donc il ne faut pas non plus caricaturer. Ça peut être globalement, je veux dire, on peut sociétalement se positionner en disant eh bien, voilà, c'est perte et profit, donc on arrête l'expérimentation animale. Après tout, et moi je l'ai entendu par certains enseignants, et ça m'a vraiment interrogé, parce que finalement c'est pas faux. À partir du moment où on a une maladie génétique et qu'on maintient des patients en vie, alors que finalement la nature aurait dû les éliminer, est-ce que finalement ça vaut le coup de sacrifier des animaux pour effectivement maintenir des individus qui n'auraient pas dû survivre. Vous voyez ce que jusqu'où on peut aller ? Donc ces points-là sont quand même assez fondamentaux. Je veux dire, il ne faut pas qu'on caricature non plus en disant l'expérimentation animale, on l'éradique. Si on l'éradique, et moi je ne suis pas forcément contre, ça pose des enjeux sociétaux majeurs et qu'il faut qu'on discute ensemble.
Bien sûr.
Bonjour, j'aurais voulu poser une petite question. Je souscris totalement à votre analyse, à l'analyse que vous avez faite, mais il me semble que l'utilitarisme, c'est tout de même la justification essentielle de l'expérimentation animale. C'est la perspective. Et donc là, il y a quelques jours, vous y faisiez allusion, il y a eu le petit scandale à propos du diabète pour un médicament qui a été médiateur, bon, peu importe, qui a été expérimenté pendant, qui a été expérimenté sur animaux, plusieurs lots d'animaux, et pas simplement pour l'autorisation de mise sur le marché. Ça a été le cas pour l'histoire du sang contaminé, autre scandale, où on a inoculé aux singes le virus du sida et on a déduit de sa réponse à l'inoculation, à savoir qu'il devenait séropositif sans développer la maladie et sans la transmettre non plus, que le sang pouvait être transfusé sans qu'on prenne de précautions. Bon, il y a eu le Vioxx, il y a eu la thalidomide qui a fait des bébés difformes quand la mère a pris ce sédatif. Il y a eu aussi le Lycopé-Baycor chez Bayer qui a fait des morts aux États-Unis. Donc moi, la question que je me posais, c'était on demande aux méthodes alternatives d'être validées. Qu'est-ce qui valide la méthode animale ? Parce que moi, vu de l'extérieur, j'ai un peu l'impression que la médecine humaine est fondée sur une sorte de médecine vétérinaire. Alors là, c'est tout à fait autre chose que ce que vous avez développé, mais il me semble que c'est au nom de quoi on continue et on justifie. Je me tais.
Je crois que nous avons compris. Excusez-moi, c'est pour des questions horaires. Est-ce que vous avez...
Alors, je trouve très intéressante votre intervention. Moi, je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas
qui valide. Je me permets juste de faire un commentaire au passage. Vous omettez quand même une phase très importante qui est la phase d'expérimentation sur l'homme, entre l'animal et... Voilà. Donc, ça veut dire que ces médicaments sont sortis sur le marché, puisque vous citez le Mediator. Il est sur le marché depuis longtemps. Donc, en fait, ça a réchappé... on va dire non seulement à l'expérimentation animale, mais aussi à l'expérimentation sur l'homme. N'oublions pas ce volet-là. Et c'est le cas de tous les médicaments. Donc il n'y a pas un saut direct de l'animal au marché. Hein. Il y a quand même 5-6 ans d'essais sur l'homme. Donc c'est encore, on va dire, le tableau est encore plus noir dans ce cas-là que ce que vous avez dit. Et je crois qu'il faudrait discuter globalement des essais. Oui, parce que c'est 500 sur je ne sais pas combien de millions. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'il faudra mener un jour ici.
Bah pour une heure. Donc, si on veut se garder un petit temps de discussion, je crois qu'il va falloir que chaque intervenant se limite à 15 minutes. Donc, on ne va pas perdre de temps du tout. Donc, je vais donner la parole... On va donner la parole en premier lieu à Vinciane Després, qui est philosophe et psychologue à l'Université de Liège, au département de philosophie, qui va nous dire « Penser comme ou avec un rat ».
Bien, je vous remercie de m'avoir invité. En fait, le titre de ma conférence pose une question que j'essaye d'adresser aux chercheurs. Alors, je pense que ça vaut la peine de penser... Donc, je ne vais pas tellement parler des rats, ni rien. Je ne vais même pas parler des rats ici. Je vais plutôt parler d'une certaine manière de comment comme philosophe, on peut faire le travail par rapport à l'expérimentation. Alors, contrairement à d'autres philosophes, et notamment à Florence, je ne prendrai absolument pas position ni par rapport à l'expérimentation, non pas que je n'en pense pas quelque chose, mais parce que je situe ma pratique ailleurs. Je situe ma pratique comme complémentaire, d'une certaine manière, à celle du travail que font notamment Florence, que font Elisabeth de Fontenay, et que font certains de mes collègues philosophes encore rares, qui travaillent avec l'animal et pas sur le dos de l'animal. Alors, d'une certaine manière, j'essaie, en fait, si je pose la question de penser avec, comme ou avec un rat, c'est que j'essaie de poser la question parallèle, c'est penser avec ou comme, ou avec les chercheurs. Et je pourrais peut-être partir d'une anecdote. Par exemple, c'est une anecdote qui dira bien, enfin, qui me permettra de déployer deux ou trois questions à partir d'elle. C'est la philosophe et dresseuse de chiens et de chevaux Vicky Hearn, qui dit qu'elle a entendu dire de la part d'expérimentateurs expérimentés, d'expérimentateurs behavioristes expérimentés, à leurs jeunes collègues qui commençaient des expérimentations, essayer de ne pas travailler avec des chats, ça ne marche pas très bien avec eux. Et quand elle leur demande pourquoi est-ce que ça ne marche pas bien avec des chats, eh bien, les expérimentateurs expérimentés disent, bah, écoutez, dans les recherches cognitives en tout cas, ça va très très bien au début. Hein, donc on leur demande de résoudre une tâche pour évaluer leurs compétences cognitives. Et très rapidement, leur courbe d'intelligence atteint une croissance immédiate. Hein, donc ça monte tout de suite des très très bons chiffres. Et puis brutalement, ils arrêtent de travailler et ne font plus rien du tout. Et en fait, disent les expérimentateurs, c'est une fois qu'ils ont compris que s'ils travaillent, c'est parce qu'on leur a demandé, qu'on les oblige à le faire, ils ne veulent plus le faire du tout. Alors donc, disent les expérimentateurs expérimentés aux jeunes expérimentateurs, essayez de ne pas travailler avec des chats, mais jamais aucun expérimentateur ne publiera la raison réelle pour laquelle il ne faut pas travailler avec des chats. Ce qui circule dans les laboratoires, c'est ils foutent les données en l'air, point barre. Alors Vicky Hearn va dire en outre, ne croyez pas que les chats, c'est parce qu'ils ont mauvais caractère ou parce qu'ils veulent pas répondre aux demandes de l'être humain, pas du tout. C'est au contraire parce que le fait de faire plaisir à l'autre est quelque chose de tellement important qu'on ne va pas le faire sous obligation parce que ce serait indigne. Alors, cette anecdote, est-ce qu'un expérimentateur serait capable de la raconter ? Ils sont capables, en tout cas, de la publier, oui, de la raconter entre eux, de la publier, non, certainement pas, de la raconter entre eux. Et donc, on peut se poser la question, mais d'où elle vient cette anecdote ? Elle vient non seulement d'une philosophe, mais d'une philosophe très particulière, parce que c'est une philosophe qui d'abord est dresseuse. Donc, ça veut dire que ça vient de l'espace profane, si on préfère. Et cela vient, en effet, de cette espèce de séparation entre ce qu'on peut dire comme scientifique et ce qu'on peut dire comme profane, ce qui vaudra d'ailleurs que les profanes vont se faire non seulement disqualifier, mais je relèverai une remarque que Florence, justement, sur laquelle Florence est revenue, c'est à quel point Claude Bernard, et je trouve que c'est son exposé, Florence, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, pour voir à quel point Claude Bernard va créer tout le temps des gestes de disqualification par rapport aux hommes du monde. Alors, je vais essayer de me comporter deux minutes comme femme du monde, mais en espérant ne pas être moi-même victime de cette disqualification. Bien que femme du monde et homme du monde, ça n'a plus du tout la même signification. On devrait quand même se poser la question de savoir, tiens, mais qu'est-ce qui arrive encore à un terme ? Et je vais repenser à une expérience qui est la première expérience en expérimentation, en fait, qui a été décrite notamment très, très bien par Chapin et Schaeffer dans leur travail, c'est l'expérience de Bowles. Ils disent que le premier geste expérimental, c'est l'expérience de Bowles qui va démontrer que le vide d'air est possible, ce qu'on pensait pas du tout à l'époque. Et il va créer donc une pompe à air. Et Chapin et Schaeffer, et à la suite de quoi Bruno Latour, vont étudier ce qu'a fait Bowles et vont dire, mais ça, c'est vraiment la première expérimentation. Pourquoi ? Parce qu'on va, l'expérimentation, c'est rendre public un phénomène. Donc, c'est arriver à créer des faits en laboratoire sous une mode purifiée et suffisamment éloquent, visible, etc. Mais c'est le fait d'appeler d'autres gens à venir assister et voir, et dans ce cas-là, c'était des notables. Or, ce que Bruno Chapin et Schaeffer ne racontent pas, mais que Donna Haraway, la philosophe des sciences, va raconter, c'est qu'en fait, dans cette expérience, à un moment donné, au départ, c'était des hommes et des femmes qui assistaient. Et ce que Donna Haraway raconte, c'est qu'à un moment donné, pour prouver le vide de sa pompe à air, donc le dernier récipient qui est au milieu, Bowles va y mettre un oiseau. Et quand l'oiseau va mourir, il va dire, vous voyez, il y a du vide d'air. Et à ce moment-là, les femmes qui étaient présentes dans l'expérience se sont offusquées. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bowles ? Raconte Donna Haraway, il a mis les femmes à la porte. Ça devenait une affaire d'homme, cette histoire scientifique. Et là, c'est intéressant parce que c'est pas, elle le raconte comme féministe, et c'est pas quelque chose qui est très connu. Il faut vraiment aller. C'est parce qu'on a affaire à une historienne des sciences qui est allée vraiment chercher dans les archives, etc. Ah, on ne parle jamais de ça. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est les femmes qu'on met à la porte? On peut le dire comme féministe, mais c'est aussi le profane qu'on met à la porte, c'est-à-dire celui qui s'offusque. Et là, c'est intéressant parce qu'on nous raconte l'histoire. Et je trouve ça intéressant de relire, par exemple, Claude Bernard, comme tu le fais, Florence. On nous raconte l'histoire comme si le profane est celui qui s'offusque parce qu'il est profane, alors que peut-être c'est celui qui s'offusque qui devient le profane. Ce qu'il faudrait peut-être apprendre à raconter, c'est que la désignation du profane, elle se fait aussi par rapport à une certaine capacité, par une certaine façon de s'offusquer. Donc il y aura un éthos qui fait que le scientifique, publiquement, ne va jamais s'offusquer, faute de quoi il risque d'être envoyé à l'insulte de profane. Et le profane pourra penser comme un scientifique, mais une fois qu'il commence à s'offusquer, on dira « Ah ben, on voit bien que vous n'êtes pas scientifique. » Et donc, de bien penser dans les deux sens, cette histoire-là. Alors, je me dis donc, moi, alors, donc, la question de s'offusquer, etc. Alors, il faut poser la question. Alors, quelle est ma position de philosophe? C'est, moi, je ne cherche pas à m'offusquer. Pourquoi? Parce que si je m'offusque, il faut que des gens s'offusquent. C'est extrêmement important. Mais si je veux pouvoir continuer à travailler avec les scientifiques, je dois faire attention à ce que mon offuscation ne soit pas perçue comme le geste qui va me désigner comme l'autre, comme celle qui ne les comprend pas, comme celle avec qui on ne peut pas discuter, puisque justement profane. Et je me disais finalement qu'il y avait quelque chose, c'est dans la philosophie pragmatiste que j'ai trouvé une façon, un outil de travail pour moi. Et ici, je vais suivre la très très belle thèse d'Émilie H. Je pense que tu as connu cette thèse, que tu étais dans le jury, qui dit à un moment donné, mais comment est-ce qu'on peut, comme philosophe, ne éviter de devenir un philosophe moralisateur? Comment est-ce qu'on peut prendre au sérieux la morale sans devenir moralisateur? Et elle va trouver une réponse dont je trouve qu'elle est superbe du point de vue pragmatiste, il ne faut pas dire ce qu'il faut faire, il faut accompagner les gens là où ils font ce qu'il faut faire. Et là, ça devient intéressant. Donc, essayer d'accompagner les gens là où ils font ce qu'il faut faire. Alors, je me suis dit, tiens, mais dans les situations expérimentales, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le scientifique ne s'offusque pas? Alors, de nouveau, je vais pouvoir aller très vite dans ce que je t'ai dit, puisque, Florence, tu l'as bien montré, comment est-ce qu'on passe du mot et évitement d'une stimulation ou non-possibilité d'évitement d'une stimulation aversive à désespoir? Qu'est-ce qui fait qu'un scientifique passe difficilement de l'un à l'autre? Alors, il y a une première réponse qui est de dire, on peut pas, si on passe de l'un à l'autre, il devient très difficile de faire la pratique. C'est là où je vais entrer peut-être en désaccord avec Florence, alors que je la suivais dans son exposé jusqu'à présent. C'est que, justement, à cause d'Haraway, c'est là où je ne suis plus tout à fait sûre. En tout cas, je ne vais pas parier sur le fait que ça va les empêcher de faire leur travail. D'abord parce que j'en suis pas sûre que ça va empêcher de faire le travail, parce que je vois... Et si j'affirme que ça va les empêcher de faire le travail, de penser ça, j'affirme en même temps que certains scientifiques qui sont parmi nous ont franchi le pas et pourtant ils continuent à faire leur travail. Donc je dois faire avec ça. Ou bien alors je nie le fait qu'ils aient franchi le pas, je les traite d'hypocrites, etc. Et je me sens un peu mal à l'aise à ne pas cautionner ce que les gens ont fait, à ne pas les croire sur parole d'abord. Et puis après on peut voir. Et heureusement qu'il y a des esprits plus critiques que moi, parce que moi, je continue à croire sur parole beaucoup de gens à tort très souvent. Donc, ce que je veux dire, c'est que la formulation pragmatiste, c'est de se dire, si on les croit sur parole, si on pense que certains scientifiques peuvent passer de l'évitement d'une situation aversive au désespoir et continuer à travailler, pourquoi est-ce que c'est important de devoir le penser? Je me dis, c'est important parce qu'on facilitera le fait qu'ils passent d'un an à l'autre si on leur dit... vous pouvez continuer à le faire et on ne vous taxera pas d'hypocrite. Et c'est possible de continuer à faire de l'expérimentation, mais on fait de l'expérimentation autrement. Donc, plutôt que de tout ou rien, je pose la question. Et là, je pense que j'annonce d'une certaine manière ce que Georges va nous dire. Georges, tu peux... Enfin, je n'annonce pas ce que tu vas dire, mais je sais que tu as fait de l'expérimentation tout en sentant mal à l'aise. Donc, ça veut dire... Ou bien alors, je dis que Georges était incapable de parler de désespoir, etc. Ce qui n'est pas... Je vais dire ce qui n'est pas le cas. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est de dire comment est-ce qu'on va définir ce que les scientifiques font quand ils font des choses comme « je suis capable de parler du désespoir », de telle sorte à ce que le fait de pouvoir le faire pour d'autres scientifiques modifie les conditions de l'expérimentation. Et c'est-à-dire que penser comme ou penser avec un rat, c'est passer de l'étape où on se pose la question de savoir « mais qu'est-ce que mon animal pense de ce que je suis en train de fabriquer avec lui ?» Et comment est-ce que je peux amener cet animal à, d'une certaine manière, entrer avec moi dans une relation où je le respecte. Alors le respect ici, je sais que c'est un peu dur de café avalé pour certains, mais moi je prends le mot respect au sens de nouveau de Haraway, qui repart sur l'étymologie de respect, et c'est respectare, c'est répondre au regard de. Donc c'est apprendre à répondre, respecter. Alors, bon, ceci demanderait d'autres développements, et je vais faire un peu vite. Alors, d'une certaine manière, bien, on peut d'abord se poser la question, tiens, mais quand un scientifique reste dans l'incapacité de répondre, dans l'incapacité, mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'il reste dans l'incapacité de répondre, qu'est-ce qui fait qu'il doit rester dans l'évitement, hein, ce que j'appelle, ce que tu as bien nommé, donc tout ce vocabulaire behavioriste et objectiviste qui évite de penser que l'animal pourrait se désespérer, que l'animal est mal, que l'animal nous perçoit comme un ennemi et des choses comme ça. Et je vais faire référence ici au travail d'une psychologue, qui a travaillé avec des gens victimes de torture. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que j'utilise cette analogie-là, je crois, parce que c'est souvent à elle que je me réfère pour essayer de penser les pratiques. Et elle se pose la question, elle dit, ben, si on veut soigner les gens victimes de torture, il y a une première question à se poser, c'est finalement, quelle est l'intention avec laquelle on les a démolis? Et comment est-ce que la façon dont on les a démolis nous indique la façon dont on peut les reconstruire? Et donc, elle dit, par exemple, il y a quelque chose que les bourreaux font systématiquement avec les gens qu'ils torturent. C'est, premièrement, ils vont détruire la pensée. C'est la première chose qu'un bourreau fait, c'est détruire la possibilité de penser. Et deuxièmement, détruire la possibilité d'encore avoir des attachements affectifs. Ça, c'est le travail du bourreau. Et puis, Françoise Sironi va poser la question, mais qu'est-ce qui fabrique un bourreau? Et elle va constater qu'en fait, les bourreaux sont fabriqués sur le même modèle que les victimes de torture. Sauf que chez eux, le travail de reconstruction est effectué. Donc on commence par, pour former un bourreau, on commence par interrompre, par lui rendre incapable de penser, par des rites initiatifs qui sont très très proches de la torture, et puis on rompt toute forme d'attachement, détruit toute forme d'attachement des bourreaux à leur famille, à leurs amis, etc., de telle sorte à ce que les nouveaux attachements ne se fassent plus que par rapport à l'autorité ou à d'autres bourreaux, etc. Donc on devient un bourreau. Et puis, c'est ces attachements qui vont être reconstruits qui parachèvent la reconstruction. Avec une victime de torture, on détruit et on ne reconstruit pas. Et donc, elle va montrer à quel point, en lisant des manuels d'analyse, etc. Alors, je ne vais pas faire des analogies faciles, mais je me dis, mais tiens, finalement, qu'est-ce qui fait quand on pose la question, et ce n'est pas du tout une analogie par rapport au bourreau, c'est de se dire, qu'est-ce qui empêche qu'un scientifique puisse se poser certaines questions? Qu'est-ce qui a paralysé, ou qu'est-ce qui le protège, ou qu'est-ce qui fait que certaines formes de pensée sont obligées d'être interrompues? Et en même temps, qu'est-ce qui permet à d'autres scientifiques, qui, eux, sont capables de parler, par exemple, de désespoir, ou d'accepter que l'animal répond à leurs questions, ou d'accepter que l'animal a un point de vue sur la situation qu'on leur propose, eh bien, finalement, c'est peut-être ça qu'il s'agit d'étudier, et c'est ça qu'il s'agit d'observer. Et ça n'empêche pas, je pense que c'est pas, d'une certaine manière, quand un scientifique arrive à formuler la question de savoir est-ce que je ne suis pas en train de désespérer un animal, et est-ce qu'il répond à un dispositif abstrait, mais plutôt à une intention qu'il perçoit comme une intention destructrice, hein, ce qu'on pourrait peut-être penser à l'égard de certains animaux, hein, que le désespoir, ce n'est pas une réaction au dispositif, c'est vraiment la perception d'une intention destructrice qui s'adresse à eux. D'une certaine manière, eh bien, amener le chercheur non pas à penser que se poser cette question-là empêcherait les expérimentations, mais rendrait les expérimentations comme, d'une certaine manière, n'allant pas de soi. Et ça, c'est déjà une première étape qui me semble extrêmement importante, c'est d'amener le chercheur à penser « cette expérimentation ne va pas de soi ». Et une fois qu'une expérimentation ne va pas de soi, il me semble qu'à ce moment-là, quand on arrive à penser « ça ne va pas de soi », on arrive à ce moment-là à poser cette question de savoir « tiens, comment l'animal perçoit-il ce que je suis en train de lui fabriquer ? Comment est-ce qu'il perçoit, non pas un dispositif et des questions abstraites, mais des intentions ?» Je pense par exemple ici, vous savez, aux recherches de Masson qui étaient extrêmement importantes dans les années 70. Quand Masson, pour moi, c'est très important, a pu montrer que si vous affamez des singes, hein, c'était une expérience que tu connais bien, si vous affamez des singes, ben, ils développent, donc on peut très facilement détecter l'hormone du stress, les endorphines du stress dans leur sang. Or, si vous les affamez en leur donnant un ersatz de nourriture, l'hormone du stress n'existe pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement le fait de ne pas être nourri, c'est le fait, et moi je vais jusqu'à dire, et certains chercheurs aujourd'hui sont capables de le dire, c'est le fait de percevoir qu'il y a une intention destructrice à son égard. Alors donc, ça veut dire que des chercheurs sont capables de faire ce type de recherche, et c'est à repérer là où ces recherches sont menées que j'essaye de travailler. Tiens, pourquoi ? Quelles sont les questions qui ont dû être modifiées pour arriver à ce qu'on puisse poser cette question-là ? Alors, j'en reviens à Vicky Hearn. Les premiers à avoir posé cette question qu'on peut repérer sur le terrain, enfin, non, il y en a d'autres, mais ceux qui ont collectivement posé cette question-là, c'est poser la question de est-ce qu'il n'y a pas du désespoir, etc. C'est comme on l'a rappelé ce matin, et c'est Raphaël Larrère, par exemple, notamment, qui a bien alerté ça. Ce sont les techniciens animaliers. Deuxièmement, je pense que des alliés assez sûrs dans l'affaire aujourd'hui, ce sont les psychologues cognitivistes, pour des raisons qui sont des raisons à eux, hein, c'est leur propre problématique de scientifique, c'est de poser de plus en plus la question du point de vue animal. Il y a de plus en plus de nombreux animaux. Donc, chez les psychologues cognitivistes, on arrive de plus en plus à des questions comme est-ce que, par exemple, les corbeaux, si on leur ment, et que c'est un humain qui leur ment, est-ce qu'ils sont capables, au coup suivant, de faire gaffe à l'humain ? Mais ça veut dire qu'on commence à penser que les animaux perçoivent les intentions des chercheurs. Alors, on l'a fait avec les primates, puis on le fait avec les corbeaux. Masson, à mon avis, sans explicitement le dire, mais le faisait d'une certaine manière avec ses singes dans les années 70. Les recherches qui ont été faites sur les chiens de Pavlov ultérieurement, où on montre que ce n'est pas la cloche qui sonne qui déclenche réellement le comportement du chien, mais c'est l'idée qu'il va pouvoir jouer avec quelqu'un, parce que le chien est un être social, et avoir quelqu'un qui lui apporte de la nourriture, c'est d'abord quelqu'un avant d'être de la nourriture. Enfin, toutes ces recherches-là sont des choses que les cognitivistes vont particulièrement bien développer. Et le troisième aspect qui me semble extrêmement intéressant, voilà, je vais arrêter, c'est les propositions que font d'une part Donna Haraway à propos des animaux de laboratoire et d'autre part de la part de Jocelyne Porcher à propos des animaux d'élevage, c'est peut-être de commencer à considérer que les animaux travaillent. Alors Michael Robinson, qui était un pharmacologue dans les années 40 et qui était un pharmacologue extrêmement attentif au bien-être animal, qui a d'ailleurs fait des propositions qui, hélas, n'ont pas été entendues en Angleterre dans les années 40, dans les laboratoires de pharmacologie, en disant, si vous voulez des résultats un peu plus fiables, parce que la science anglaise était désastreuse à cette époque-là, des résultats un peu plus fiables d'un laboratoire à l'autre, vous feriez mieux d'uniformiser les conditions d'expérience. Et disait-il, croyez-moi, si vous uniformisez les conditions d'expérience, vous avez tout intérêt à les uniformiser dans le top du top, parce que les animaux collaborent beaucoup mieux aux expériences quand ils sont bien, qu'ils sont bien traités et qu'on est gentil avec eux. Et donc l'idée que les animaux puissent travailler, c'est peut-être, comme le montre Jocelyne et comme le montre d'autre part Donna Haraway, c'est peut-être, je vais le dire très simplement, ce sera ma conclusion, en fait, qu'est-ce que ça change si on dit que l'animal travaille ? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je pose la question. C'est, est-ce que c'est vrai ou non que l'animal travaille ? Ça, ce n'est pas une question que je me pose. Par contre, qu'est-ce que ça change si on commence d'affirmer ça ? Eh bien, ça change qu'on commence à prendre en compte l'intersubjectivité, c'est-à-dire la relation entre le chercheur et son animal. Et donc, ça veut dire qu'on commence à obliger les chercheurs à poser la question de ce qu'ils font en des termes d'intersubjectivité et plus seulement d'objectivité en termes de neutralité. Voilà.
La discussion à la fin de présentation. Donc, je vais donner la parole à Georges Chapoutier, qui est directeur de recherche au CNRS et qui va nous parler des désarrois du chercheur face à l'expérimentation animale. Donc, lui, il a une double formation de scientifique et de philosophe.
Bon, je ne suis pas sûr de répondre exactement aux questions posées par Vinciane, mais enfin, je vais effectivement vous présenter mon expérience personnelle qui répond un peu à certaines questions. Pourquoi certains chercheurs se comportent d'une certaine manière ? Alors, la recherche expérimentale sur l'animal vivant, bien sûr, ne peut pas être perçue comme une question émotionnellement et moralement neutre, bien entendu. Il y a en gros, alors je vais commencer par quelques schémas philosophiques, pardon, un peu simplifiés. Il y a en gros trois manières de percevoir ce que c'est, de concevoir ce que c'est qu'un animal. Il y a l'animal humanisé, l'animal être sensible et l'animal objet. Pardon d'être schématique. L'animal humanisé consiste à concevoir l'animal comme une sorte d'être humain, de petit être humain, qui peut même, en cas de faute, être puni. On a parlé ce matin des procès du Moyen-Âge où des animaux étaient jugés, punis, etc., s'ils avaient tué un homme. Et je rappelle qu'au temps de Louis XII, par exemple, pour détendre un peu l'atmosphère, l'évêque d'Autun avait même voulu excommunier les rats parce qu'ils transmettaient la peste et il a perdu son procès. Une autre facette importante de l'animal humanisé, c'est la métempsychose, qui, dans beaucoup de régions, fait penser que l'âme humaine peut, après la mort, s'intégrer dans un corps animal. C'est une conception encore très répandue. En plus, bien sûr, cette conception de l'animal humanisé a une importance littéraire considérable dans les fables, dans les nouvelles, etc. Je ne reviens pas là-dessus. La deuxième conception, qui est la plus proche des connaissances scientifiques modernes, et sur laquelle je reviendrai plus tard, c'est celle de l'animal être sensible. Elle découle logiquement des résultats de la biologie qui démontrent l'existence, chez la plupart des animaux, de mécanismes de perception des stimuli nocifs, dangereux pour l'organisme,
mécanismes qui peuvent ensuite être traduits ou intégrés dans des systèmes de douleur ou de souffrance. Mais, malgré ce qui pourrait paraître une évidence, la pratique de la plupart des scientifiques ne réfère pas directement à cette conception, pourtant clairement étayée par la science. La plupart des scientifiques recourent implicitement ou explicitement au modèle de l'animal-objet, conséquence philosophique indirecte et mal digérée de l'animal-machine de Descartes, dont on a déjà parlé. Je rappelle que pour Descartes, le corps de l'animal, comme le corps humain, sont des machines. Et en ce sens, la philosophie cartésienne prépare les bases matérialistes de la biologie expérimentale d'aujourd'hui, même si on peut trouver des éléments vitalistes chez Claude Bernard. La science actuelle est matérialiste. La science biologique actuelle est matérialiste. Mais Descartes ajoutait que, outre leur corps, les êtres humains possédaient en outre une âme et donc complétaient sa position matérialiste par un complément spiritualiste. C'est ce qu'on appelle le dualisme cartésien, l'âme et du corps. Et du coup, dépourvus d'âme, les animaux devenaient de simples machines avec les conséquences désastreuses pour le traitement qu'on pouvait en tirer. En fait, c'est surtout comme souvent le disciple de Descartes, Malebranche, qui a caricaturé les pensées du maître. C'est lui qui tapait sur des chiens et qui disait « Regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure ». Si j'insiste sur ces positions post-cartésiennes, et pardon pour le jeu de mots « mal branché », c'est qu'elles baignent très largement la pratique d'aujourd'hui, comme je voulais le démontrer. J'en arrive à mon parcours personnel. Autant que je me souvienne, depuis ma plus petite enfance, j'ai éprouvé de la sympathie pour les animaux. Je ne peux pas dire d'où est venue cette attirance, si elle est génétique ou acquise. Je l'ai retrouvée chez ma fille aînée, qui, toute petite, sachant à peine marcher, s'était précipitée avec des vocalisations d'affection vers un dragon supposé effrayant qui passait à la télévision. Durant cette phase précoce, je pense que l'enfant rejoint spontanément la thèse de l'animal humanisé. Pour moi, à cette époque, les chiens du voisinage, dont je connaissais tous les noms, étaient des individus, des personnes, tout à fait comparables à moi-même ou à mes parents, juste un peu différents morphologiquement. Une de mes activités des vacances, c'est d'ailleurs de construire des cimetières pour insectes que je recouvrais de morceaux de tuiles. Et à l'âge, d'autre part, où nous dit-on, les petites filles s'intéressent aux poupées, les petits garçons aux autos et aux soldats, je m'intéressais pour ma part, de manière fusionnelle, aux nounours, qui allait occuper une grande part de ma vie d'enfant. C'est plus tard que je me suis détaché de ce modèle. On me le répétait, on me le disait, aussi bien au catéchisme qu'à l'école laïque, nous étions des hommes, donc bien différents des animaux, sur lesquels nous avions tous les droits. Donc, réponse partielle, l'enseignement, on nous apprend ça. Nous étions des êtres de raison, et dans mon cas, la raison allait petit à petit prendre le pas sur les sentiments. Le modèle post-cartésien allait petit à petit prendre le pas sur le modèle de l'animal humanisé. Ceci coïncida avec ma découverte des sciences naturelles, pour lesquelles je me passionnais dès les premières leçons de choses de l'école primaire, et surtout ensuite à partir de la sixième. Donc mon intérêt sentimental, j'abrège un petit peu pour ne pas déborder, mon intérêt sentimental pour les animaux se meut ainsi peu à peu en un intérêt scientifique, non pas que j'en oublie ma sympathie spontanée pour les chiens et les chats, plusieurs chattes furent des amis très intimes de mon adolescence, et j'en garde un souvenir ému, mais parce qu'à côté de cette sympathie, tolérée d'ailleurs par mon environnement familial et social, il était clair qu'il y avait une place importante pour les connaissances scientifiques scolaires. D'ailleurs, abondamment saluée, quant à elle, par mon environnement familial intellectuel, pour lequel le succès scolaire était l'essentiel. Si, bien entendu, on s'attendait à ce que j'obtienne de bons résultats dans les matières nobles, comme les maths, le français, les langues, on tolérait, avec une bienveillance attentive, mon intérêt pour cette matière, certes marginale à mon niveau, mais qui promettait de déboucher sur un des projets de vie acceptables, comme la médecine. Longtemps, l'ambiguïté de ma situation s'est manifestée dans le fait que, tout en adoptant les comportements qui m'étaient enseignés par mon milieu, comme on m'avait appris, tuer un animal était normal, pour se protéger des animaux qualifiés de dangereux, comme les couleuvres par exemple, pour manger, pour se vêtir, pour s'instruire, etc. Mais en même temps, j'étais gêné par les comportements les plus extrêmes, quand la mort et la douleur de l'animal, qui conservait pour moi une partie de son caractère humanisé, paraissaient illégitimes. Ainsi, quand le coiffeur de mon village, où je passais mes vacances, racontait à ses clients ses exploits de chasseur et comment il avait abattu des écureuils, etc. J'étais vivement choqué. Je suis resté d'ailleurs très anti-chasse à cause de ça. Un jour, la chasse qui vivait chez mes grands-parents, avec qui j'entretenais des rapports étroits d'amitié, amena 4 petits chatons, devenus trop gros pour qu'elle pût les cacher plus longtemps dans le foin sous les jauges des vaches. Nous passâmes, ma sœur et moi, un après-midi exceptionnel à cajoler ces délicieux chatons. Et grande fut ma détresse d'apprendre le lendemain qu'ils avaient été abattus. Mais, me fit-on valoir, on ne peut pas conserver en vie tous les chats qui naissent. L'ambiguïté de ma position faisait que je comprenais parfaitement le raisonnement, mais que je ressentais cependant la douleur. J'étais écartelé entre la raison post-cartésienne et la sympathie spontanée pour l'animal humanisé. À la fin, j'ai basculé provisoirement dans la froideur post-cartésienne. À la fin, je me suis cru complètement insensible à la douleur animale. J'ai commencé une collection de papillons. J'abrège. C'était pas très différent des mollusques, etc., que je collectionnais. J'ai voulu vendre à ma petite sœur mes nounours préférés de mon enfance. Et puis ma carrière était toute tracée du coup. Je crois d'ailleurs qu'on est très largement formaté, j'y reviendrai, par sa naissance, sa famille, son environnement social, réponse aussi, et que la marge de liberté dans nos choix de vie reste très mince. J'entamais une carrière de biologiste qui devait me mener au CNRS, où je suis toujours. Dans cette carrière au CNRS, je voudrais opposer clairement les débuts et la fin de carrière, ou encore le jeune chercheur et celui de la maturité, tant il est vrai que ma position dans ce domaine a progressivement changé. Non pas sur le fond épistémologique. Je suis convaincu de la nécessité, si on veut faire progresser actuellement la médecine et les connaissances biologiques, hein, toujours le même problème de tout à l'heure, de faire appel à des pratiques de recherche expérimentale. Donc, je ne résous pas le problème qui était déjà débattu par Burgard en particulier. Mais à l'intérieur de ces pratiques, ma conception de l'animal a fortement évolué. Durant ma formation d'étudiant en biologie, puis lors de mes débuts de jeune chercheur, j'ai expérimenté, principalement sur des rongeurs, comme on m'avait appris à le faire. Dans cette formation post-cartésienne, bernardienne, ma pratique traitait clairement les animaux comme des objets. Mais jamais dans mon fort intérieur, je n'étais franchement post-cartésien. Certes, lors des expériences qu'on me faisait faire, notamment pour mes examens universitaires, je ne montrais aucune sensiblerie, qui d'ailleurs aurait été très mal perçue. Je ne manifestais aucune sympathie pour les animaux. Je jouais le jeu que je devais jouer, mais il était clair dans mon esprit que ce jeu devait se limiter à des cas où l'expérimentation était vraiment nécessaire, à ma formation d'étudiant, à mes travaux, etc. J'adoptais donc la position de beaucoup de chercheurs, certes sensibles aux animaux, et qui était résumée de la manière suivante par un de mes maîtres, Georges Ingard : ce n'est pas du tout agréable, mais il faut le faire. En revanche, je m'indignais parfois ouvertement quand la philosophie exposée par un chercheur ou le désagrément causé aux animaux sortait clairement du cadre de la nécessité purement scientifique. Je m'indignais face à des comportements qui niaient la douleur possible aux animaux ou, pire encore, profitaient des expériences pour s'amuser. Tel ce collègue qui m'affirmait « il faut traiter les souris comme de petits morceaux de bois ». J'ai toujours trouvé indignes les souffrances infligées inutilement aux animaux d'expérience en dehors des préoccupations scientifiques. Je n'ai jamais approuvé les phrases du genre, ça reprend quelque chose qui a été dit tout à l'heure, mais j'ai entendu cette phrase. Ce n'est pas la peine de donner à boire aux animaux durant le week-end, puisqu'ils vont être tués lundi. Bref, j'étais totalement post-cartésien dans ma pratique, mais très ambigu dans ma conception profonde de l'animalité. Une conception qui oscillait entre la raison post-cartésienne et une sensibilité à l'animal qui lui était tout à fait étrangère. Je trouvais pour ça toutes sortes d'alibis que, pour abréger le discours, je vais vous passer. Quand on défend cette position-là, il y a des tas d'alibis qu'on se crée, c'est utile, etc. etc. Il y en a des tas, on y reviendra si vous voulez, mais je vais les abréger. Croyez-moi, on peut se trouver des tas d'alibis. J'en arrive à la maturité, disons, le chercheur un peu que je suis devenu. Je suis issu d'une famille très littéraire. Ce fond littéraire me manquait sans doute. En outre, j'ai une famille où la chose essentielle était de passer des examens et des concours. Une fois ma thèse de sciences terminée, thèse d'état de sciences, je me suis senti un peu désœuvré. Pour toutes ces raisons, je trouvais utile d'entamer un cursus de philosophie. Bien sûr, dans le cadre de ce cursus, j'orientais mes mémoires et mes thèses vers des sujets que je connaissais bien et à propos desquels je pouvais développer une réflexion utile. Ainsi, pour ma thèse d'état, mes désarrois sur la question de l'animal, en même temps que mes intérêts prononcés pour l'écologie politique, le lien a été évoqué ce matin, me firent choisir comme sujet, essai d'une définition de l'éthique de l'homme par rapport à l'animal, et j'entamais ce travail avec la direction de François Dagonier, qui a été cité, qui est un élève de Canguilhem. J'ai dit aussi, je crois qu'on est très déterminé par nos relations sociales. La chance a voulu que, dans le cadre de ces recherches de philosophie, un destin bienveillant mette sur mon chemin une rencontre avec Jean-Claude Nouette, qu'on a vu ce matin. Celui-ci venait de fonder avec quelques amis la Ligue française des droits de l'animal, et Nouette m'invita à réfléchir davantage sur la question du respect et des droits des animaux sous l'angle de la protection non plus seulement des espèces, mais aussi des individus, êtres sensibles et capables de ressentir la douleur. Après une errance théorique qui m'avait fait basculer avec les désarrois que j'évoquais, de l'animal petit homme de mon enfance à l'animal objet post-cartésien de mes débuts dans la recherche, cette réflexion philosophique sur l'animalité me conduit naturellement à la seule position sérieusement défendable par un scientifique aujourd'hui, celle de l'animal être sensible. J'y étais également très fortement induit par une année passée au service unitaire avec des chimpanzés, où j'ai vécu, alors là complètement, j'avais pas cette relation-là avec le rat, parce que le rat est assez distant, si j'ose dire. Mais avec les chimpanzés, j'ai eu une relation d'égal à égal, absolument. J'étais un chercheur qui considérait ces animaux d'expérience exactement comme des enfants et qui les traitait comme tels. Donc ça a beaucoup fait pour mon évolution ultérieure. J'en arrive donc à la conception que l'animal est un être sensible qui comprend bien entendu des mécanismes qu'on peut analyser, des mécanismes matérialistes qu'on peut analyser, sur lesquels je vais passer assez rapidement aussi, qui sont des mécanismes de nociception, j'ai dit tout à l'heure, qu'on peut analyser et qui sont intégrés ensuite dans des systèmes de douleur liés à des émotions ou de souffrance liées à la cognition. Je vais passer là-dessus, il y a toute une analyse scientifique qu'on peut faire, qui est surtout connue chez les vertébrés, même si on commence à le subodorer chez les pieuvres. Mais il faut ajouter que, sur un plan philosophique, à côté de cette, et je pense que c'est compatible, à côté de cette conception matérialiste, mécaniste ou analytique, biologique, de la douleur des animaux, la question de la sensibilité animale recouvre aussi une conception globale que l'on peut rattacher à la phénoménologie. J'avais écrit ailleurs, comme d'ailleurs d'autres biologistes, comme Jean Delacour, que j'étais de ceux qui pensaient que la phénoménologie était parmi les grandes doctrines philosophiques d'aujourd'hui, celle qui s'accordait le mieux avec les données empiriques des neurosciences, celle dans laquelle les neurosciences en particulier et la biologie en général pouvaient trouver une expression philosophique moderne et convaincante. Bref, qu'il n'y ait pas opposition, mais au contraire complémentarité entre l'analytique matérialiste de la biologie actuelle et une appréhension plus globale du vécu des êtres vivants, comme le propose la phénoménologie. Et à ce propos, la meilleure introduction à cette approche phénoménologique, si vous voulez, de la sensibilité animale, c'est probablement le livre de Florence Burga, Liberté et inquiétude de la vie animale, que je conseille vivement. Dans ce cadre, la douleur animale ne doit plus être cantonnée dans la seule description froide et réductrice de ces mécanismes nociceptifs, mais comme un vécu fondamental de toute animalité. Et j'invite tous les chercheurs à se pencher sur cette question. On comprendra qu'à ce point, ou à ce moment de sa vie, le chercheur biologiste de la maturité, devenu aussi philosophe, ait rompu ses attaches avec la logique post-cartésienne de l'animal-objet. Encore dominante en biologie, je le maintiens. C'est encore cette logique qui domine, qu'on avait voulu lui imposer à ses débuts. Comme d'ailleurs avec la logique anthropocentrée de l'animal humanisé pour d'autres raisons. Pour rejoindre la seule logique compatible avec la neurobiologie d'aujourd'hui, qui est celle de l'animal être sensible. Un être sensible à qui l'on peut et l'on doit attribuer certains droits conformes à son être propre et au mode d'être de son espèce. Ça veut dire qu'il y a une ouverture vers une réflexion morale importante, qui a été soulignée abondamment aujourd'hui, que si on reconnaît des droits aux animaux, ça veut dire que si on maintient la nécessité d'expérimentation, et ça peut se discuter, on l'a déjà abondamment discuté, ça veut dire qu'il y a un conflit de droits entre les droits de l'homme à la médecine et les droits de l'animal à vivre sa vie comme animal sensible qu'il est. Et donc c'est de cette façon-là qu'il faut poser la question. Et ça rejoint un petit peu la réponse qu'a donnée Vinciane, qui est que le chercheur ne doit plus considérer l'animal comme un objet, comme un outil à son service, ou comme un système permettant d'avoir sa thèse, mais comme une sorte de partenaire qui souffre, qui travaille, et donc qu'il faut lui attribuer des droits particuliers et tenir compte de ses droits dans la réflexion. Alors je ne réponds pas, bien entendu, à la question. Je n'ai pas résolu ici la question de l'expérimentation animale vis-à-vis d'oppositions comme celle de Florence Burga. Mais vous voyez qu'on voit la question d'une façon tout à fait autre, et c'est là-dessus que je voulais construire. Je vous remercie.
Intervention va nous être présentée par Séverine De Retz, j'espère que je ne corrige pas trop, qui est directrice de l'unité de génétique et expérimentation en production animale de l'INRA Poitou-Charentes. Elle va nous parler de l'éthique pragmatique d'une expérimentatrice. Voilà, on est toujours dans l'éthique, dans toutes ses déclinaisons. Voilà, c'est toujours de
l'éthique. Donc, alors moi j'utilise un support diapo, c'est curieux, habitué, enfin c'est vraiment passé dans les mœurs, sauf aujourd'hui je suis impressionnée par ça en fait, par la capacité de certains orateurs à ne plus s'appuyer sur des, ou ne pas s'appuyer des sur philosophes. Des supports des, ou des philosophes, c'est voilà, pas, ouais, c'est, je pense que c'est ça la différence.
Comme si c'était, comme c'était, ouais. Un truc, comme si c'était antérieur.
Voilà, donc je suis... aussi très impressionnée d'intervenir aujourd'hui. J'ai vraiment l'habitude de parler, j'interviens dans beaucoup d'instances, parce que j'ai pas mal de responsabilités, puis j'aime ça, donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis très impressionnée parce que, alors il y a peu de monde dans la salle, il y a quelques étudiants, et je voudrais leur dire qu'ils ont... Ouais, mais je préférerais, j'aurais préféré qu'ils eussent été 400. Mais, donc il y a des étudiants, et je voudrais leur dire, moi j'aurais adoré... étant étudiante, d'avoir en face de moi les gens qui sont intervenus. Je parle évidemment pas pour moi, mais pour toutes les personnes qu'on a entendues jusqu'à présent, parce que je m'intéresse à l'éthique, et je pense qu'on a eu des interventions exceptionnelles par des personnes qui vraiment ont un regard tout à fait pertinent sur la question. Alors, qui suis-je ? Donc, je dirige une unité expérimentale à l'INRA, du département de génétique animale, qui compte donc au sein de l'unité des cochons, des lapins et un labo de chirurgie. Donc vous voyez, à plus d'un titre, on a le devoir de se préoccuper d'éthique. Donc je suis aussi membre du bureau de l'expérimentation animale, toujours à l'INRA, qui a pour fonction de justement de s'interroger un petit peu sur les pratiques. Il y a un comité d'éthique aussi interne à l'INRA. Je suis aussi membre du comité d'éthique régional Aquitaine-Poitou-Charentes en tant que scientifique, mais je pense aussi en tant que profane. En tout cas, j'espère. Mais surtout, je suis un primate doté de fonctions cognitives particulières qui lui offre la possibilité de se poser des questions éthiques. C'est une chance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une unité expérimentale ? Donc, dans une unité expérimentale, on met en œuvre des protocoles expérimentaux. J'ai un peu surligné des termes qui me paraissaient importants. Protocole, qui dit protocole, dit procédure, donc quelque chose d'assez normé. Expérimentaux, définis par des scientifiques. Donc, je ne définis pas les protocoles que je mets en œuvre sur les animaux. C'est important. La notion aussi d'animal modèle dans l'expérimentation. On en a un petit peu parlé ce matin, mais il me semble que c'est très important aussi. Donc on utilise pour modéliser des phénomènes biologiques chez d'autres espèces, parfois pour les animaux, mais aussi souvent chez d'autres espèces. Donc c'est un schéma très, très simpliste, mais voilà un petit peu l'organisation. Donc, les unités de recherche nous soumettent des protocoles et nous leur remettons des résultats. Il y a plusieurs équipes au sein de mon unité que j'essaie de coordonner tant bien que mal. Alors, moi, je me questionne énormément sur l'éthique parce que au sein de l'INRA, il y a des questions. Enfin, vous avez vu l'intervention de Florence, une collègue, mais je pense que vous prenez 50 personnes de l'INRA et ils auront un avis tous tranchés. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une politique institutionnelle, peut-être malheureusement ou peut-être heureusement, je ne sais pas. Les scientifiques aussi parfois nous questionnent sur l'éthique. Les agents eux-mêmes, c'est-à-dire les 30 personnes qui sont sous ma responsabilité, sont amenés à me poser des questions parfois sur l'éthique. L'entourage, bien sûr, j'essaye d'être le moins schizophrène possible. C'est-à-dire quand je rentre chez moi, j'ai des enfants aussi qui ont des lapins, j'ai des chevaux aussi. Donc voilà, ma propre conscience aussi m'interroge souvent, la société tout entière, donc etc. Donc en fait, mon travail quotidien consiste à essayer de répondre en fait à tous ces questionnements qui sont très différents les uns des autres. Donc bon, j'ai pris une citation. Alors les citations que j'ai, il y en a très peu, mais celles que j'ai récupérées, je les ai récupérées d'une expertise toute récente, une expertise collective qui a été menée par quelqu'un de l'INRA qui s'appelle Pierre Lenindre, et dans laquelle sont cités des gens qui sont intervenus aujourd'hui, que j'ai trouvée très pertinente et qui relate un petit peu tout ce qu'on a vu depuis ce matin, mais qui s'attache essentiellement à la douleur animale. Donc il y a 300 et quelques pages sur cette question-là, mais en l'abordant de manière très large. Et j'ai trouvé très intéressant. Et donc voilà, c'est une des choses que j'ai pu récupérer dans ce document. Donc l'heure serait venue, après la libération des esclaves au nom de l'antiracisme, celle des femmes au nom de l'antisexisme, de libérer les animaux au nom de l'antispécisme. Je trouve que ça fait réfléchir de manière positive, bien sûr. L'émergence de nombreux courants de pensée, effectivement, sont issus de cette évolution, forcément, et vous en avez eu depuis ce matin pas mal d'illustrations. Le statut de l'animal aussi pose question, donc on a vu ce matin aussi quelques réflexions là-dessus. Pour ce qui concerne la demande sociétale, donc moi j'ai élargi un petit peu. La société ne demande pas que de se préoccuper du bien-être animal. Elle demande aussi de garantir la qualité des produits alimentaires. Elle demande aussi de limiter la souffrance, donc ça on en a parlé. De justifier notre utilisation de l'animal. Et tout ça, il me semble que la réglementation a pour fonction de traduire la demande sociétale de manière en loi, en fait. Voilà. Alors, dans ma position, je ne veux pas apporter des réponses, je veux juste vous faire part de mes questions, en fin de compte, parce que malheureusement, les réponses ne sont pas toujours faciles à trouver. Alors, faire de l'expérimentation animale dans un domaine où se confrontent les théories, l'empirisme, les valeurs, des croyances, c'est tenter de concilier donc, une position finalisée et pratique, donc c'est est-ce que la fin justifie les moyens ou est-ce qu'on s'attache seulement à améliorer ses pratiques ? Des valeurs morales et des obligations, on en a parlé aussi un petit peu au cours de la journée. Ma propre sensibilité et ma rationalité, donc ça, je me retrouve complètement dans ce qu'a dit mon voisin, Monsieur Chapoutier, parce que effectivement, moi, j'ai une certaine sensibilité à l'égard de l'animal. Le matin, je m'occupe de mon chien, de mon chat, de mes poules, mes chevaux, etc. Ensuite, je passe la porte de chez moi, j'arrive sur mon lieu de travail où il y a 2000 cochons élevés dans des conditions industrielles, des animaux qui sont utilisés à des fins de chirurgie. Donc, c'est vrai qu'on est, et je pense que tout scientifique sensible à la cause animale, et je pense que les gens qui s'orientent dans des filières vers la biologie, et en particulier vers la biologie animale, n'y vont pas par dégoût envers l'animal, mais plutôt par goût envers l'animal. Donc on se retrouve tous confrontés à cette aberration quelque part. Alors, de manière très pratique, c'est pour ça que j'ai souhaité parler d'éthique pragmatique, pour le côté pratique et méthodologique un petit peu, de ma façon d'aborder la question. Il y a tout ce qui ne dépend pas ou peu de moi, donc la sensibilité de mes agents à l'égard de l'animal. Là, je ne veux pas entrer dans des confrontations de valeurs. Voilà. La conscience éthique des scientifiques aussi. C'est pareil, c'est des confrontations de valeurs. Le droit, les droits et les devoirs à l'égard de l'Institut, c'est-à-dire que j'entendais ce matin parler d'objections de conscience pour des raisons des gens qui s'opposent en fait en Italie, à l'utilisation de l'animal à des fins d'expérimentation. Ça existe en Italie, ça n'existe pas en France, donc on a un devoir malgré tout, tant qu'on est payé par l'Institut, de répondre à la demande de l'Institut. Par contre, il y a des choses qui dépendent de moi, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, par exemple, les équipements au sein de l'unité, tous les équipements, je peux influencer l'évolution dans l'équipement utilisé pour l'expérimentation, formation, sensibilisation des agents, sensibilisation aussi des scientifiques, l'application de la réglementation, ça c'est quelque chose que je mets en œuvre aussi au quotidien. Alors j'ai repris les trois points, je vais aller vite. Donc l'application de la réglementation, donc mon rôle est d'informer les agents et les scientifiques de l'histoire, l'esprit de la loi, donc aussi diverse soit-elle, donc le code rural, la réglementation en expérimentation animale, les notes de service, enfin la traduction par les notes INRA, l'existence des comités d'éthique, etc. Les obligations, leurs obligations à l'égard de l'animal, au moins au minimum pour respecter la loi, et les sanctions encourues dans le cas où ils ne les respecteraient pas. Ce que je peux faire aussi dans ce domaine, c'est d'essayer d'accompagner le changement auprès des animaliers. Et ça nécessite de briser pas mal de tabous, de rompre le silence, de déculpabiliser les personnes qui travaillent au contact de l'animal. Et là, j'ai repris encore quelque chose que j'ai trouvé. Je pense que c'est Jocelyne Porcher qui devait être l'origine de cette phrase. Donc la place de l'affectif dans le travail a été réduite à de la sensiblerie ou à du sentimentalisme en y associant une connotation péjorative. Or, les animaliers sont dotés de sensibilité, le rapport affectif avec l'animal ne peut pas être occulté. La dégradation des relations entre animaliers et animaux a eu des conséquences chez les animaliers jusqu'à la souffrance psychique. Donc, en effet, les pratiques aujourd'hui peuvent induire, et moi je le constate, je le sais, peut-être que j'en suis d'ailleurs la première victime, j'en sais rien, mais qu'effectivement ça peut conduire à des souffrances psychiques. Les animaliers préfèrent soigner les animaux plutôt que de les faire souffrir ou de les tuer, donc ça revient à la remarque que je faisais tout à l'heure, si on fait de la biologie animale et de la génétique, etc., c'est parce qu'on aime l'animal. Donc il y a une désertion du salariat en élevage porcin, donc voilà, c'est issu... Et ça, évidemment, c'est pas par hasard. Autre chose que je peux faire à mon niveau, c'est auditer, évaluer les pratiques au sein de mon unité. C'est des choses qui ont été faites, entre autres. On a fait pas mal de choses, mais ça a été fait aussi. Interpeller les scientifiques en diverses occasions, soit parce que je fais partie, entre autres aussi, du conseil de gestion du département de génétique. Donc c'est une occasion de les interpeller via le comité d'éthique aussi, enfin différentes instances. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, comme je le disais dans l'exposé, il y a aussi tout ce qui dépend de moi, et en particulier le changement des pratiques ou l'application, enfin ou l'utilisation d'équipements qui risquent moins d'induire de la douleur. Alors la règle des 3 R, on a parlé ce matin, donc c'est quelque chose. Je voulais souligner juste que c'est assez ancien et c'est marrant, ça ressort maintenant en fait dans la réglementation, alors que depuis 1959 quand même c'était quasiment défini et acquis, quoi. Bon, je vais passer vite parce que ça a été présenté ce matin, donc réduire, remplacer, voilà. Et moi je parlerai quand même d'un quatrième R qui est celui des responsabilités que l'on a dans notre travail ou à l'égard de l'animal. Donc au sein de l'INRA, comment je le comprends, ces responsabilités, elles sont au niveau du département scientifique, département de génétique en l'occurrence pour ce qui me concerne, au niveau des centres, donc ici on est dans le centre Poitou-Charentes, donc parce qu'il y a une mise en œuvre d'une politique, il y a de l'administration, il y a de la prévention, il y a de la formation et de la communication, auprès bien sûr par les scientifiques, donc des considérations éthiques en amont de l'élaboration des programmes, les responsables d'élevage, donc par la sensibilisation des agents ou le développement d'outils, les animaliers bien sûr, parce qu'au final c'est eux qui au quotidien sont au contact avec l'animal, que ce soit en matière de savoir-faire ou de savoir-être. Et les directeurs d'unité ont eux aussi leurs responsabilités. Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est vraiment un ensemble, c'est un partenariat. Si on veut changer les choses, si on veut accompagner le changement dans le domaine, dans les pratiques en expérimentation animale, je pense qu'on le fera difficilement en s'y opposant, ça a été dit un petit peu, et en braquant quelque part les scientifiques qui sont plutôt des convaincus, mais plutôt en accompagnant à tous les niveaux le changement. Donc c'est un travail de fourmi et de longue haleine. Alors, de manière encore plus concrète et pratique, plus j'avance, plus je suis dans le concret, on essaye d'intégrer aussi la notion de point limite, ça a été abordé ce matin. Donc le point limite, c'est le moment auquel la souffrance ou la détresse doit être arrêté, minimisé ou diminué à l'aide de mesures telles que l'euthanasie par l'arrêt du processus qui le fait souffrir ou par un traitement visant à le soulager. Tout est là, un petit peu, hein, dans l'expérimentation. Donc ça se décline, ça a été aussi abordé, ça se décline de manière... il ne suffit pas de dire, je ne sais plus qui l'a dit, il ne suffit pas de dire il faut limiter la souffrance. Le faire, ça amène en fait à toute une réflexion, un enchaînement de choses qui sont toutes plus complexes les unes que les autres. Donc observer les animaux de manière appropriée, donc comprendre le comportement propre à chaque espèce, notamment dans des conditions d'environnement qui peuvent varier aussi, assigner des valeurs objectives aux observations liées au comportement et à la physiologie de l'animal. Un animal qui est prostré, un lapin, ça peut être parce qu'il a froid, ça peut être aussi parce qu'il souffre, c'est une proie, donc il ne va pas exprimer, il va pas crier. Enfin, chaque animal a ses propres signes, exprime la douleur ou la souffrance de manière variable, déterminer les indicateurs les plus significatifs de la douleur, déterminer des facteurs prédictifs, enfin, vous voyez, répondre aux objectifs scientifiques concernant la détermination d'un point limite objectivement mesuré et donc significatif, définir clairement l'information, les données recherchées à travers les expériences, etc. Pour dire que travailler sur la douleur, ça ne s'improvise pas non plus. Le premier point uniquement, donc je reviens uniquement sur le premier, que j'ai un petit peu décliné, observer les animaux de manière appropriée. L'évaluation de la souffrance, de la détresse et de l'inconfort des animaux par l'observation a été établie à partir de 5 paramètres. Donc variation du poids de l'animal, apparence physique externe, signes cliniques de la douleur qui sont mesurables, par exemple changement de rythme cardiaque et respiratoire, changement du comportement, réponse comportementale aux stimuli externes. Alors j'ai cité un exemple, j'ai terminé quasiment. Donc chez le bovin, donc c'est pareil, c'est issu de l'expertise là, sur laquelle je me suis penchée pour mon intervention d'aujourd'hui. Donc voilà un nombre de signes qui ont été démontrés, en tout cas chez le bovin, comme étant des signes de la douleur. Donc augmentation de tout cet ensemble de facteurs, catécholamine, fréquence cardiaque, pression artérielle, température centrale, fréquence, etc. Donc il y a des signes clairs qui, combinés les uns aux autres, permettent d'identifier de manière, je pense, appropriée et objective une souffrance, et ils nous permettent de définir un point limite, c'est-à-dire on arrête l'expérimentation parce qu'il y a souffrance ou douleur. Donc pour faire ces mesures-là, là, je vous citais un exemple qui date d'hier, en fait, c'est pour ça que je le cite aujourd'hui. On est en train, au sein de l'unité, d'acquérir ce qu'on appelle un système de télémétrie qui permet de surveiller à distance et en continu des paramètres biologiques tels que la température, l'électrocardiogramme, pression artérielle, électromyogramme, etc. Plus possibilité de faire toute une analyse
de l'évolution, de la variabilité, d'avoir des alertes, des systèmes d'alerte à distance, par mail, sur votre téléphone, etc., s'il y a une souffrance chez l'un de nos animaux. Et donc, c'est un dispositif évidemment coûteux. Je pense que l'argent n'est pas, contrairement à ce que disait Mohamed Jaber ce matin, n'est pas tant que ça limitant. Je pense qu'aujourd'hui, au sein de l'INRA, il y a une volonté un petit peu politique d'aller dans le sens d'avoir des pratiques les plus éthiques possibles. Et on trouve des fonds. Enfin, moi, en tout cas, j'en trouve. J'ai trouvé 100 000 euros pour l'acquisition de cet équipement. Donc voilà, bon, c'est une représentation du système. Voilà, j'ai terminé.
Désolée de vous avoir bousculé, mais le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Bien, nous allons commencer ce débat. Je vais vous demander tout d'abord si vous avez des questions à poser à Vinciane Després, qui doit partir assez rapidement. Donc, on va commencer par cela, si vous voulez bien.
Les étudiants qui parlent entre eux n'ont pas de
questions.
Voilà,
avez-vous des questions pour Vinciane Després ?
Attends, Yves.
Oui, je crois que sur la fin de votre intervention, vous avez abordé la notion de subjectivité qui résultait de la relation entre l'expérimentateur et l'animal. Et à mon avis, c'est un problème beaucoup plus large encore qui pose la question de l'influence que peut avoir un expérimentateur par rapport au résultat de son expérience. Et je trouve que c'est un point très, très important. Sur d'autres aspects, ça m'est arrivé dans ma vie de pratiquer avec un autre expérimentateur exactement la même expérience côte à côte et d'avoir des résultats très différents. Donc je suis persuadé de ce que vous avez avancé.
Oui, Rosenthal l'avait montré dans les années 60, hein, en faisant une expérience avec des rats. Il avait demandé à des étudiants d'évaluer des compétences et ils avaient dit, voilà, ils sont des rats qui sont issus de lignées sélectionnées pour leur intelligence ou leur bêtise à un test. Il avait donné à certains étudiants, voilà, vous aurez un rat intelligent, et à d'autres, vous aurez un rat idiot. Et puis les étudiants ont testé les rats sélectionnés donc pour le test, et puis les rats étaient toujours intelligents, enfin les descendants. Et puis Rosenthal leur a dit, mais en fait, ils n'étaient pas sélectionnés du tout, c'était des rats que j'ai achetés à l'animalerie, ils n'ont pas, etc. Et on a constaté, par exemple, que les étudiants qui avaient eu un rat intelligent, qui pensaient que le rat était intelligent, avaient des tests, donc des résultats bien meilleurs, mais quand on voit le détail de l'affaire, en fait, ils avaient été beaucoup plus affectueux et encourageants avec leur rat. Et donc ça, c'est là où Michael Robinson disait quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, c'est quitte à ce que la subjectivité influence, essayons d'aligner notre subjectivité sur la meilleure subjectivité possible. Et à ce moment-là, on arrive à une forme d'objectivité, puisque, je vais dire, ou plutôt une forme d'objectivité concrète, c'est-à-dire, plutôt que des conditions neutres, cherchons des conditions dont on neutralise la différence des effets, ce qui est tout différent, en mettant les meilleures conditions possibles. Merci de...
Je voulais donner un petit exemple de faire travailler les animaux. On utilise maintenant des techniques d'éducation, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec les primates en particulier, pour, par exemple, quand il y a des injections répétées, les habituer à venir et présenter leurs pattes pour recevoir l'injection. Et bien sûr, ils ont une récompense à côté. Et ça, ça remplace soit une contention un peu musclée, soit une anesthésie à chaque fois. Donc, je pense qu'en termes de respect de l'animal, le faire participer de façon assez positive à l'expérience, c'est quelque chose de beaucoup mieux vécu par lui. Et on peut même le faire sur un individu dans un hébergement où ils sont à plusieurs. Donc, c'est juste un exemple.
Oui, tout à fait. Et là, ça donne, pour moi, ça dénote le fait que les chercheurs, quand ils commencent avec des choses comme ça, savent et commencent à pleinement reconnaître que sans la collaboration de l'animal, normalement, on ne pourrait pas travailler. Alors, on peut quand même travailler en les forçant à la docilité, parce qu'on peut être assez abominable dans cette affaire-là. Je veux dire, les humains, ils s'y entendent en termes de pouvoir. Hein, on sait s'y prendre. Alors, surtout qu'on est beaucoup plus grand et plus fort que la plupart des animaux. Ce qui est intéressant, c'est de ce que ça entraîne. Une fois que les chercheurs commencent à penser l'animal comme collaborant, ce n'est pas encore automatique, parce qu'on peut très bien être cynique. On peut très bien se dire aussi, c'est plus facile d'avoir un animal qui vient lui-même présenter son corps pour être piqué. Ça pourrait être simplement de la manipulation, ça pourrait être considéré comme tel. Sauf qu'on commence à négocier. Et une fois qu'on commence à négocier, je pense que c'est déjà un tout petit peu d'intersubjectivité. Mais on n'est pas innocent. Voilà, ça c'est, je veux dire, il n'y a rien d'innocent dans cette affaire-là. Ce n'est pas une belle histoire. C'est une histoire un peu moins mauvaise. On n'est pas dans le régime de la légitimation, on est plutôt dans le régime de on essaie de faire le moindre mal. Mais on ne peut pas dire qu'on fait le bien. Je ne pourrais jamais avaler un truc pareil. Non. Oui, je sais bien que vous ne l'avez pas dit, mais je précise ma position dans cette affaire-là. Je ne pourrais jamais dire qu'avec une expérimentation, on fait le bien. Je trouve que ce n'est pas vrai. Mais on fait le moindre mal possible. Là, je trouve que c'est une position très intéressante. Quand les chercheurs disent qu'on essaie de faire le moindre mal possible. Mais on ne peut pas viser le bien dans cette affaire-là. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'injustices.
Ils sont calmes cet après-midi. Mmh. Par contre, c'est vrai, je suis un peu obsédée par les images. On n'a pas vu d'images. Les scientifiques ne nous ont pas montré comment ils pratiquaient l'expérimentation. Est-ce que là, il y a un obstacle épistémologique, Georges Chapoutier ?
Non, enfin, là, je crois que c'est beaucoup plus concret. Les philosophes n'ont pas l'habitude de prendre des images.
Non, mais je parle à tout le monde. Je parle aux scientifiques aussi, qui étaient là ce matin.
Je crois que c'est ma faute. J'aurais dû insister en disant, amenez-nous des images.
Non, pas du tout. C'est pas ça. Je veux dire... Comment ça se pratique, vous ? Les gens sont entre eux à part d'expérimentation, les étudiants qui sont là en font, certains scientifiques en font, nous, nous n'en avons jamais fait. Qu'est-ce que c'est qu'une expérimentation animale ? Comment ça fonctionne et pourquoi... Voilà.
Il y a des expérimentations.
Il y a des expérimentations, ouais. Mais on ne les a pas vues.
Le problème, c'est que c'est très varié. Hein.
Il y a deux sujets tabous, c'est-à-dire on ne montre pas d'images d'expérimentation et on ne montre pas d'images d'animaux dans les élevages industriels. C'est un peu la même chose.
Alors, non, je crois que vous avez...
Parce qu'il y a très peu d'images d'animaux industriels. Et puis, alors, l'expérimentation, j'arrive, c'est difficile. Mais
Je suis expérimentateur, j'ai beaucoup expliqué sur les rongeurs. Là, il se trouve que j'ai fait un exposé oral.
C'était général.
Quand je fais des exposés scientifiques, je monte sans arrêt des tests sur la mémoire, hein, des labyrinthes, des choses comme ça. J'en montre sans arrêt. Je veux dire que ça, il se trouve que c'est comme ça. En aucun cas, je refuse de montrer les tests d'apprentissage que
Mais il y a des expérimentations propres. Et des expérimentations, je ne dis pas sales, je dis qu'ils sont moins propres.
Oui,
voilà.
Alors,
donc là, tu parles des expérimentations
oui,
propres.
Mais alors la chirurgie, effectivement, il y a des photos de chirurgie, ce n'est pas très beau à voir, ni chez l'homme, ni chez l'animal. Il y a des photos de chirurgie. Oui, si, ça. Dans les congrès scientifiques, ça se montre. Mais effectivement, l'idée n'est pas venue de les montrer ici.
Et dans les revues scientifiques aussi, hein, vous allez sur PubMed, sur Internet, et sur PubMed, vous avez énormément d'articles scientifiques qui sont disponibles immédiatement en ligne et dans lesquels vous avez des illustrations, hein, c'est pas caché.
Oui, je crois pas, enfin, peut-être pour l'autre exemple que vous donnez, mais pour les scientifiques, je crois pas qu'on cache ces expériences. Moi, si j'ai pas monté mes appareils de conditionnement, c'est que je trouvais que c'était pas illustratif aujourd'hui.
Alors, pour le profane que je suis, de regarder le matériel qui est vendu, les plaques chauffantes, les guillotines, les plaisanteries qui sont faites aussi par les vendeurs de matériel de laboratoire, c'est assez édifiant, je dois dire. On trouve ça très facilement sur Internet et on peut imaginer un petit peu les choses. Mais c'est vrai que c'est très frappant de voir que toute la journée, on peut parler de quelque chose sans que, sans que on sache au fond de quoi il s'agit.
Pour nous, voilà. C'est évident, mais effectivement, pour les non-scientifiques, c'est sûr que voilà. Ça ne l'est pas.
Oui. Merci. Ça y est, du coup, je suscite un débat. Il y a des taxis.
Non, mais alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que est-ce qu'un débat sur la peine de mort s'accompagne obligatoirement d'une image de guillotine ? Alors voilà.
Moi, je prends plus de questions que des étudiants maintenant.
Bonjour, moi je suis étudiante en médecine et sciences. Et du coup, j'ai un peu le double aspect des bénéfices qu'on peut avoir dans la recherche animale chez l'homme. Et je fais aussi donc, de l'expérimentation chez l'animal. Et je suis assez surprise par la vision qui est défendue de l'expérimentation aujourd'hui, en tout cas pour moi. Et l'expérience que mes collègues peuvent avoir, on a l'impression qu'il y a un certain décalage entre la vision que vous pouvez avoir de l'expérimentation. On n'a pas de respect de l'animal ou l'animal est vraiment animal-objet. Alors qu'on a plutôt l'impression d'avoir une conception d'animal sensible, à être sensibilisé justement à cet aspect éthique. Et du coup, ma question est-ce que pour vous, si imaginons dans les conditions parfaites où l'expérimentation serait dans le respect de l'animal, avec une coopération entre le chercheur et l'animal, et un animal considéré comme animal sensible, est-ce que pour vous, est-ce qu'il serait éthique de ne pas faire cette expérimentation-là vis-à-vis de l'homme ?
Moi, je peux répondre pour moi. Oui. Moi, je suis expérimentateur, donc je peux dire que c'est utile de faire l'expérimentation et qu'il est légitime de la faire. Mais je pense que Burga et Vinciane viennent de partir, je pense qu'elles ne seraient pas d'accord.
Mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est éthique pour l'homme ?
Bien sûr que c'est éthique pour l'homme, bien sûr. Non. Moi, j'ai conclu mon exposé sur un conflit de droits en disant l'homme a des droits
à la médecine et la science qui la sous-tend, et l'animal a des droits, droits de l'animal conformément à son espèce, etc., etc. Lorsqu'il y a conflit, je prends un exemple caricatural, vous avez un homme né avec un tigre. Bon, effectivement, le tigre a le droit de bouffer, je suis bien d'accord avec vous, mais il est clair qu'en tant que membre de l'espèce humaine, comme toute autre espèce, on aura le primat à notre espèce. Bien, l'expérimentation animale me paraît rentrer dans ce cadre-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit de droits fondamentaux entre l'intérêt de l'homme à développer la médecine et les droits de l'animal, on donnera le primat, dans mon esprit, hein, on donnera le primat aux droits de l'homme. Donc, je réponds par la légitimité. J'entends par droits fondamentaux de l'homme les droits à la santé, à la vie, etc. J'entends pas le droit de chasse, nous sommes bien d'accord. Hein. Mais donc, moi, je réponds à la question. Je pense que Burga, et c'est dommage qu'elle soit partie, parce qu'elle ne vous aurait pas répondu comme ça. Hein. Elle ne pense pas comme ça. Donc, il y a quand même des positions qui sont assez différentes.
Mais est-ce que cette position est, excusez-moi, légitimement défendable dans le sens où...
Quelle position, la mienne ?
Non, pas la vôtre, justement, celle de dire non, c'est pas éthique de faire... Enfin, même s'il y a des...
Bah, il aurait fallu poser la question à Burga, là.
Elle est partie à ce moment-là. J'ai demandé le micro à ce moment-là, donc oui, j'ai pas pu faire autrement.
Moi, je peux plaider pour ma position, je peux pas plaider pour celle des autres. Non.
Mais sur un sujet comme ça, on peut bien comprendre que chacun a sa propre façon de voir les choses et que de toute façon, on ne se mettra jamais tous d'accord. Ce qui est important, c'est d'en parler. Oui.
Je rajoutais, si vous voulez faire... Vous êtes chercheur, enfin biologiste, est évident qu'il faut prendre cette position-là. Si vous partez en tant que biologiste en disant « Moi, je suis contre l'expérimentation », il faut faire un autre métier.
Exactement.
Pardon ? Oui.
Je comprends qu'il y a encore il y a sûrement des labos où ça passe très mal, les animaux sont considérés comme des objets, certes, mais imaginons un labo où les conditions sont normales, est-ce qu'il est éthique de dire non, on ne fait pas cette expérimentation, l'animal, voilà.
Dans l'état actuel des choses, dans la mesure si l'enjeu c'est la santé humaine, oui. Ma réponse c'est non, il faut faire l'expérience.
Mais oui, là, j'aurais été curieuse de connaître la réponse. Vous la devinez.
Non, mais ce qui serait intéressant, et Georges a bien montré ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, tu nous as raconté ta vie. Quoi. C'était vraiment passionnant.
Comme quoi, surtout, on est formaté.
C'était vraiment très, passionnant. Très formaté. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu t'es tourné vers la philosophie. C'est pas, bon, il n'y a pas que la philosophie dans la vie, bien entendu. Mais ça serait intéressant aussi pour nos étudiants. Et c'est pour ça que je disais ce matin, avoir une formation. Que je souhaitais en effet que l'éthique soit définie non pas comme seulement quelque chose, une sorte de principe auquel on vient recourir après qu'il y ait eu des problèmes, mais comme une formation de base en philosophie, comme on étudie la théorie de l'évolution, etc. Vous savez, en terminale, on n'a pas étudié l'éthique. Enfin bon, on a fait qui a étudié un peu Spinoza, parce que vous avez étudié Spinoza, que vous savez ce que c'est que l'éthique aujourd'hui. Je veux dire, levez la main ceux qui le savent. Mais je pense que ça serait très intéressant pour eux, et comme il est intéressant aussi pour les philosophes et toutes les disciplines littéraires de s'intéresser aux sciences. Je ne dis pas que les scientifiques doivent seulement s'intéresser aux sciences, s'intéresser à la philo, mais aussi que les philosophes doivent s'intéresser aux sciences. Ça, c'est très important, cette interdisciplinarité. Et Georges a bien montré, sa génération en fait partie, à quel point on peut être formaté. Et justement, il met en garde contre ce formatage. Et ce qui sera intéressant, c'est permettre, mais là, les gens ont... C'est déjà très difficile en ce moment de faire des études, si en plus il faut faire d'autres études à côté. Mais mettre de la philosophie, mettre de l'histoire dans les cours. On donne des conférences d'histoire des sciences. Bon, il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent. Des gens comme Georges Chapoutier vont aller dans les amphis du savoir cette année à la faculté des sciences. En première année, tu vas donner une conférence dans les amphis du savoir. Tu es au courant, Georges ?
Oui, il vient.
Donc, c'est important que vous soyez là. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail de fond à faire par rapport, je disais, à une sorte de formation scientifique, de l'esprit scientifique, philosophique. Moi, je suis convaincue de ça.
Je voudrais rebondir là-dessus parce que je pense que les enseignants des universités doivent penser à ça aussi. Parce que nous, on a l'expérience depuis une dizaine d'années à peu près d'avoir mis en place une semaine à l'intérieur d'un master d'un module qu'on a appelé éthique, sciences et société. Et sur une semaine, vraiment, les étudiants sont enchantés parce que c'est une autre façon de travailler, une autre appropriation de toute cette réflexion. Et vraiment, à la fin de la semaine, ils sont enchantés. Et je crois que c'est quand même pas très compliqué de mettre en place une semaine comme ça, mais prendre le temps pour des futurs chercheurs de se poser quelques questions, ça ne veut pas dire qu'ils résoudront, mais qu'ils vont amorcer une réflexion qui va se poursuivre après.
Moi, je voudrais juste compléter en fait, sur l'apprentissage. Je pense que c'est des choses qui commencent à rentrer dans les mœurs. Et là, aujourd'hui, moi, je suis un petit peu désolée de n'avoir aucun représentant de l'INRA, ne serait-ce que des représentants du centre. Il y a un centre INRA qui est vraiment pas loin. Et...
On a fait la...
Non. Oui, tout à fait. Mais je sais bien, moi aussi, j'ai fait de la com en interne. Les gens se sentent. Non. Moi, j'en suis peut-être la première responsable. Hein, je veux dire, mais je déplore ce fait-là. Mais je pense qu'une des causes, c'est que en ce moment, au sein de l'INRA et peut-être en particulier dans le domaine animal et en particulier en Poitou-Charentes, on parle énormément d'éthique dans toutes les cellules, les groupes de travail, etc., dans les formations. Moi-même, en interne, je fais une formation. Il y en a une au niveau du centre. Il y en a une là, dans laquelle j'interviens la semaine prochaine. Il y a 3 jours à Tours qui sont consacrés à ça. Donc, il y avait la journée d'aujourd'hui. Donc, je voudrais dire peut-être que c'est un signe. Enfin, moi, en tout cas, ça me semble assez flagrant. J'espère que ça va durer. C'est un signe que les mœurs sont en voie de changer.
Donc moi, je voulais juste parler, donc vous parliez de votre expérience. Bon, moi, j'ai une petite, très courte expérience pour le moment. Mais donc c'est pour lier aussi à ce que vous avez dit, vous. Quand vous parliez, en fait, donc moi, mon expérience, c'était l'expérience d'être animateur dans des milieux défavorisés. Donc avec des enfants, avec des milieux sociaux très durs. Et donc quand vous parliez, en fait, d'accompagner les animaliers, de déculpabiliser les animaliers par rapport à l'animal, en fait, ça m'a fait tout de suite penser au fait que j'étais confrontée avec des enfants à des choses très, très difficiles. Et en fait, moi, la distance que je peux avoir avec l'animal, j'ai dû le mettre déjà avec l'être humain, en fait. Et donc, cet accompagnement, en fait, que vous faites, en fait, pour avoir des bonnes pratiques avec les animaux, ben, je l'ai complètement lié avec ce qu'on peut faire avec comme travail avec les enfants et avec les animateurs qui travaillent avec des enfants, en fait. Donc voilà, je voulais juste soulever ce point qui est assez la dualité assez voilà, intéressante.
Oui, j'ai 2530 enfants, en fait, quand j'arrive le matin, 2500 cochons et 30 animaliers.
Oui, donc moi, je pense que c'est très important aussi de travailler en aval, en fait, avec les gens qui vont travailler avec les animaux. Voilà, quoi, effectivement.
Merci. Il y a 2 questions, après on arrête, parce que il y a un webinaire. Alors, quand même. Bon, alors, qui a levé la main? Pas trop long, madame. Hein.
Finir. Juste 2 secondes.
Ouais. Vas-y.
Donc, juste une petite information. À 17h, avec Georges Chapoutier, va donner un webinaire donc dans une pièce qui est un séminaire sur le web, mais vous pouvez y assister en direct dans la petite salle que nous avons préparée. Seulement, nous avons seulement 12 de places. Donc, tout le monde ne pourra pas y venir. Ceci dit, donc, 2e annonce, n'oubliez pas aussi à 20h30 ce soir la conférence de Jean-Louis Touraine. C'est une sur les alternatives à l'expérimentation animale. C'est quelqu'un de très important en France et qui est en train de faire évoluer la loi. Donc si vous pouvez venir, évidemment, je rejoins ce que disait Séverine tout à l'heure, c'est que ce serait désespérant qu'on ait 10 personnes, quoi. Voilà, donc je vais partir avec Georges. Et puis, si vous voulez nous rejoindre dans une dizaine de minutes, on sera en place.
Est-ce qu'il y a moyen...
Merci. Je sais pas.
Est-ce qu'il y a moyen de récupérer les interventions qu'il y a eu aujourd'hui?
Elles seront sur le site Internet. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais vous faire signer. Je ne sais pas. Donc, pas trop long, madame. Hein
oui, je voulais juste vous demander, dans le cadre de vos études de médecine, à quoi... qu'est-ce que ça vous apportait, l'expérimentation sur animal? Et quel type d'expérience? Est-ce que vous travaillez sur animal transgénique?
Dans le cursus même de médecine, il n'y a aucune expérimentation sur animal. On a des cours de physiopathologie où on a eu un cours sur l'éthique animale. On a eu 4 heures de cours avec la présentation des comités, les bonnes pratiques. On n'a absolument aucune expérimentation sur animal, aucun TP, ni rien du tout. Donc, en biologie, ils ont effectivement des TP, des travaux. Du coup, moi, en laboratoire, c'était nouveau, cette appréhension de l'animal. Et du coup, c'est pour ça que je voulais poser la question, c'est que dans l'apprentissage du métier de médecin, dans les services, on nous dit qu'il y a l'empathie, c'est bien, mais trop d'empathie, c'est délétère pour le médecin. Et je voulais aussi dire que pour mon âge, fallait pas avoir trop, fallait mettre la même empathie avec l'animal, c'est-à-dire qu'il fallait en avoir. Mais trop et le voir trop comme un animal humanisé, c'était aussi néfaste dans le travail. Et du coup, pour l'expérimentateur, il y avait une difficulté aussi.
Donc, je vous conseille de lire le livre de Valls sur l'empathie. Je pense que l'empathie, ça ne se réduit pas forcément à l'homme qui réagit comme l'animal. Hein. Voilà. Donc l'empathie, c'est un concept philosophique. Donc il y a un livre qui est paru sur ce sujet. Et en fait, vous dites qu'il faut que vous ayez le recul suffisant justement par rapport à l'animal pour ne pas être trop en empathie, pour ne pas souffrir du rapport que vous pouvez avoir aussi. Voilà, hein. Voilà, c'est ça, c'est un rapport équilibré. Mais l'empathie, donc il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui a écrit un très très beau livre sur ce qu'est l'empathie. Parce que c'est un terme qu'on a utilisé aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas philosophe, mais je pense que ça aurait été intéressant que des philosophes nous définissent le terme d'empathie. Parce que ce n'est pas un terme qui est aussi simple que ça. Peut-être que vous prenez une définition qui est peut-être un peu réduite à ce que vous faites, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, on est là aussi pour définir des concepts. Donc, madame, non ? Qui c'est qui... Non ? Qui c'est qui veut ? Ah oui ! C'est bien. Allez-y.
Moi, je suis étudiant en biologie. Oui, je suis un chercheur en herbe. Et moi, je vais rebondir en disant, à long sens strict, on ne peut pas limiter la souffrance chez l'animal. Vous croyez qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'expérimentation animale ou aujourd'hui, il faut encore mettre en question le fait que nous soyons une espèce dont nous avons besoin des autres pour améliorer notre vécu. C'est-à-dire, on ne va pas négocier avec une vache pour l'égorger. Je relance le débat sur cet aspect-là.
J'entends quelqu'un qui voulait parler.
Oui, alors, pardon, c'est vous d'abord. C'est vrai, excusez-moi. J'avais pas pensé avoir des problèmes. Allez-y.
En fait, je voulais juste répondre sur ce que disait ma collègue de médecine, là. Elle a eu des cours sur l'éthique animale et je ne sais pas comment ça se passe vraiment à Poitiers avant le M2, mais c'est des choses qu'on n'a pas nous en biologie, quoi. Donc j'ai trouvé ça étonnant, quoi. C'est tout.
Faut réclamer.
Il faut réclamer ou venir à l'espace Mendès France et je monte avec vous une journée sur l'éthique. Si vous êtes d'accord, moi, tout à fait, on voit avec Thierry, avec vos étudiants, on montre quelque chose sur l'éthique, on fait venir des gens et on vous forme pendant une journée.
Ce ne sera peut-être pas suffisant. Mais...
Pour aller dans le même sens, là, sur les pratiques, l'apprentissage... Ça, c'est les étudiants, ça. En fait, nous, on a un labo, comme je le disais, un labo de chirurgie dans lequel on travaille essentiellement. Donc, les gens qui sont à Poitiers en médecine, on en a peut-être déjà entendu parler. Mais sur les transplantations... rénal en particulier aussi, pas seulement, mais en particulier. Et ce labo sert donc effectivement soit pour des utilités d'autorisation de mise sur marché, de solutions de conservation, l'apprentissage de techniques, tests de machines, tout un tas de choses. Enfin, on essaye d'avoir des pratiques, comme j'ai essayé de vous le montrer, les plus respectueuses possibles. On traite vraiment l'animal comme un... Enfin, on a l'impression de travailler en pédiatrie. D'ailleurs, les chirurgiens disent qu'on est mieux équipé qu'au CHU. Et du coup, les internes en chirurgie viennent régulièrement travailler au sein du labo pour l'apprentissage de pratiques en étant accompagnés par des seniors, ce qu'ils n'ont absolument pas la possibilité de faire dans le cadre de leurs études. Donc, et cette question-là de l'apprentissage du geste chirurgical pour un médecin, c'est une vraie question. Et moi, je prône pas, j'ai pas de réponse en fait par rapport à l'éthique. Je prône pas l'éthique à outrance, enfin la pratique d'expérimentation à outrance, ni l'éthique à outrance. Mais parfois, en fait, il s'avère que il pourrait paraître aberrant que les étudiants en chirurgie s'entraînent pour la première fois sur un patient. Enfin, bon, je vous lance la question.
Moi, je suis étudiant aussi en biologie, donc juste pour répondre à Clément, nous, on a eu des cours sur l'éthique, mais je voulais juste dire autre chose, à savoir que ce débat-là, pour moi, il est permis aujourd'hui parce que chacun met une justification derrière ce qu'il fait avec les animaux. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait aucune personne dans cette salle qui mange des œufs ou du raticide chez lui. C'est-à-dire qu'il a évalué que la présence de souris ou de rats chez lui était indésirable. Donc pour ça, il ne s'est pas posé la question de savoir quel impact ça allait avoir derrière sur la souris ou sur son nid, la même façon qu'il n'a pas pensé que les œufs qu'il mange sont produits d'une poule qui sont conservés tous les jours dans une cage qui a la taille d'une feuille A4, qui a des cycles veille-sommeil doublés pour pouvoir produire deux fois plus. Et je ne suis pas sûr que ces personnes-là se soient demandé s'il était juste ou non de manger des œufs ou d'utiliser le raticide. Par conséquent, il pense que l'expérimentation animale ne peut pas donner une fin suffisamment importante pour pouvoir la pérenniser, parce que je pense que chaque chercheur aujourd'hui est d'accord pour dire que, de toute façon, si les animaux sont bien traités, s'ils sont respectés, les résultats n'en seront que plus justes et donc du coup exploitables. Donc, a priori, ça dépend juste de la justification qu'on se donne chacun derrière l'utilisation des animaux.
C'est dommage que vous n'ayez pas été à notre dernière journée d'études. Enfin, il y aura les actes, donc ça va répondre aussi à vos questions. Questions que vous vous posez là, qui sont très pertinentes.
Je ne suis pas étudiant du tout. Hein. Je regrette un peu que Georges Chapoutier soit parti si vite, que je l'ai blessé. Mais moi, j'ai l'impression, quand j'entends, je travaille avec des éleveurs industriels de cochons, de poulets, tout ça, ils me disent toujours, mais nous, on ne les fait pas souffrir. J'arrive ici, en retard, c'est vrai, c'est dommage, je ne pouvais pas être là. Et les expérimentateurs disent, nous, on ne les fait pas souffrir non plus. Je veux bien. Mais je veux dire, moi, je connais bien les élevages industriels. Alors là, quelqu'un me dit, les animaux ne souffrent pas, non, ce n'est pas possible. Et les animaux en cage qu'on va chercher pour l'expérimentation, ils ne sont pas dans leur milieu naturel, ils ne sont pas en forêt, ils sont en cage, voilà.
Ils ont subi du stress. Oui, voilà. Il y a d'autres moyens d'acheter les œufs, mais il faut savoir lire les étiquettes. C'est écrit sur les étiquettes.
Il n'y a pas que les poules à batterie. C'est très important de le dire. Enfin, 95. Et des poussières, 99% de nos œufs viennent des élevages de batterie. Mais il y a aussi des élevages fantastiques en plein air, etc., que je connais. Mais ça, il faut vraiment les défendre. Je veux dire, c'est un combat. C'est écrit, ça existe. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Ouais. Quand l'éleveur me dit 13 canards au mètre carré ou 23 poulets au mètre carré, c'est... Mais il en existe en liberté.
Bien sûr, je n'ai pas dit qu'il n'existait que les élevages de poules pondeuses qui sont gardées dans des cages qui ont la taille d'une feuille A4. Je n'ai pas dit que l'ensemble de la population, quel que soit le pays concerné, utilisait le raticide. Par contre, j'ai dit que ça existait. Et que ce sont des pratiques qui, à mon avis, sont plus répandues qu'on pourrait le penser et qui, elles, ne sont pas montrées du doigt parce que c'est rentré dans les mœurs. Tout simplement parce que... Et je pense qu'on pourrait étudier le nombre de présentés qui sont en provenance de ces cages-là, enfin de ces poules, c'est une proportion importante et la majorité de la population ne va pas se poser la question et va acheter un œuf. Par contre, ces mêmes personnes qui achètent des œufs en provenance de poules qui sont gardées dans des cages à 4 vont montrer du doigt l'expérimentation animale, ce qui n'est pas forcément logique. C'était pas forcément un point de vue personnel, c'est juste une logique qui n'est pas conservée toujours.
Fait ce qu'on peut aussi avec sa culture, vous le savez bien, avec la façon de le milieu dont on vient, la façon dont on a été élevé. Je pense que ça joue énormément aussi sur notre et aussi cette société de consommation qui ne nous dit pas tout. Quand il y a la pub pour les chèvres, pour le fromage de chèvre à la télé, vous savez très bien comment est fait certains fromages de chèvre. Et puis pour les poules, etc. Donc voilà. Même bon, c'est une question d'éducation.
Oui, moi je vous rejoins complètement. Je pense qu'il faut le meilleur moyen de réussir à faire évoluer les mentalités, c'est de effectivement, c'est ce qui m'a un peu inquiété même si les points de vue étaient extrêmement intéressants, dans une vision un peu caricaturale des choses, avec une espèce de vision perverse de l'expérimentation animale. Alors, ça doit concerner un certain nombre de personnes. Ça peut concerner un certain nombre de personnes. Je pense simplement qu'effectivement, le fait marquant qui va nous pousser à faire de l'expérimentation animale, et c'est de ne pas se poser de questions, parce qu'on est dans un environnement qui nous pousse à ne pas nous poser de questions. Vous voyez, moi, je suis du Sud-Ouest. J'ai été quelque part élevé avec la corrida. Je suis pas, j'ai pas l'impression d'être un pervers. Et pourtant, pendant des années, je suis allé à la corrida parce qu'il y avait une espèce de lien social qui était derrière, de culture extrêmement forte. J'allais voir l'arrivée des taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'ai été sorti de cet environnement, qui était finalement un environnement permissif, je trouvais des alibis pour défendre la corrida. Vous voyez, dans un certain contexte, parce qu'il y avait la culture, le lien social, et ainsi de suite. Donc je pense qu'effectivement, si on veut faire changer ça, il ne faut pas stigmatiser les gens. Il faut simplement leur donner, comme on l'a fait aujourd'hui, des moyens de se poser les bonnes questions et de réfléchir à leur exercice.
Non, mais tu as raison, Thierry, il ne s'agissait pas de culpabiliser les scientifiques, parce qu'en fait, comme on l'a dit aujourd'hui, on est tous coupables. C'est une société. Mais c'est intéressant quand même de se poser la question de l'histoire des animaux aussi. Qu'est-ce qu'un animal? Qu'est-ce qu'une expérimentation animale? Même si on n'est pas forcément contenté. Donc, moi, je suis contente que les étudiants aient enfin pris la parole. Et je souhaite que, avec les enseignants, on puisse monter quelque chose avec vous, hein, votre initiative aussi, puisqu'il y a des gens qui travaillent là-dessus sur ces sujets-là, parce qu'il est grand temps, et en fait, vous êtes là aussi parce que vous vous posez des questions. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez fait cette démarche de venir ici parce que vous avez dit, tiens, ce sujet-là, il est traité à Poitiers, il faut quand même que je sache. Et Dieu sait, quand j'ai organisé cette journée, je vous assure que j'ai réfléchi à deux fois, parce que c'est assez douloureux quand même. Moi, je m'attendais... c'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas de photo, non, c'est vrai, on n'était pas non plus là pour faire du... pour pleurer, mais quand même, il faut aussi accepter de voir les choses, et on a une société qui refuse de voir les choses. Bon, l'animal, c'est pas l'animal domestique qu'on caresse et qu'on rend heureux, hein, mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est remettre les choses en perspective dans l'histoire, hein, donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça à l'Espace Mendès France. Donc je lance un appel auprès de nos enseignants, membres de l'école de l'ADN, demande des étudiants, nous on a un site internet à l'Espace Mendès France. Moi, j'ai une adresse mail que je vais vous mettre là, donc faites-nous part de vos desiderata, et puis ça sera vraiment avec plaisir qu'on essaiera de faire quelque chose avec vous, et ça nous ferait très plaisir d'investir justement la jeunesse dans ces débats. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et puis nos conférenciers sont partis, mais ils étaient formidables. Madame Combrisson est restée avec nous pour voir Monsieur Touraine ce soir. Donc nous allons tous nous applaudir.